Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est marqué dans le Messilat Yesharim. En fait, tout le livre du Messilat Yesharim, il est construit sur le plan de la Braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui dit la chose suivante. Torah, mais via les Zehirut. La Torah amène à la Zehirut, ça veut dire au fait qu'on fasse attention à ce qui est autour de soi. C'est le fait d'étudier la Torah, ça amène à cette réflexion que quelqu'un, il se rend compte. Comme on dit dans les yeshivot, quand on étudie Baba Kama, par exemple le sujet des dommages, alors d'un seul coup, les gens, ils commencent à se rendre compte qu'il y a des dommages. On fait un cours sur relations parents-enfants, les gens, ils commencent à regarder un petit peu leurs parents et leurs enfants. On fait un cours sur le couple, les gens, ils s'interrogent sur le couple. Donc la Torah m'évite des zéhirout, ça veut dire la Torah, l'étude de la Torah, elle amène à l'attention, à faire attention à ce qui se passe. Zéhirout m'évite les zrizout. Maintenant, la zéhirout, le fait de faire attention, ça amène à la zrizout. Zrizout, c'est la vivacité, le fait qu'on s'investisse dans les choses de manière rapide. Zrizout m'évite les denekiout. Maintenant, l'association des deux, c'est-à-dire la connaissance. Plus le fait qu'on fasse attention, plus le fait qu'on s'investisse, ça mène à la nekiut. C'est quoi la nekiut? C'est la propreté. C'est la propreté des actes. D'accord? Quand est-ce que quelqu'un, il commence un peu à affiner son comportement? Quand il sait qu'il fait des bêtises, quand il sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, il va faire attention à chaque chose. C'est ça la nekiut. La nekiut, c'est quelqu'un, on appelle ça qu'il a une vitesse, une finesse de comportement. Oui, il fait attention à ce qu'il dit, il fait attention à ce qu'il fait, il fait attention à ce qu'il pense. C'est ça la nekiut. Nekiut mais vient l'aider prishut. Maintenant, le fait d'avoir cette forme de propreté dans le comportement, elle amène à la prishut. Prishut, c'est quoi? C'est un certain détachement du matériel. Ça veut dire quoi? C'est qu'à partir du moment où quelqu'un, il commence à sentir qu'il y a des choses importantes et des choses moins importantes, des choses essentielles et des choses moins essentielles, automatiquement, il va se tourner vers l'essentiel, ce qu'on appelle la prishut. Il s'écarte du matériel. Prishut mais vient l'aider tahara. Maintenant, le fait de sentir qu'il y a des choses qui sont essentielles, ça amène à la tahara, ça amène à la pureté. D'accord? C'est quoi? C'est l'état d'être de la séparation avec le matériel. À partir du moment où quelqu'un, il prend une distance avec le matériel, il commence à toucher à la pureté. La pureté, c'est pas encore la sainteté, c'est un état d'être, une pureté d'esprit, d'accord? Une pureté d'âme, que quelqu'un, maintenant, parce qu'on passe par un cheminement. Donc maintenant, cette personne-là, si ça fait un certain temps qu'elle fait attention à ses pensées, elle fait un certain temps qu'elle fait attention à ses actes, automatiquement, elle a un état de pureté qui la contient et qu'elle transporte autour d'elle. Le contraire aussi, si quelqu'un va dire, oh, c'est pas évident. Pourquoi? Bien sûr que c'est évident, parce que la preuve, c'est le contraire. C'est que quand quelqu'un, il a des mauvaises pensées, il a des mauvais regards, il vit dans une mauvaise ambiance, il voit bien que ça lui pourrit la tête. Donc, si on peut pourrir, on peut purifier. Parce que c'est juste l'inverse. Vous me suivez? C'est que nous, on connaît la propreté, parce qu'on connaît les tâches. Celui qui voit pas le problème des tâches, il dit, j'ai acheté un costume tacheté. Non, tu t'es fait avoir, c'est un costume d'occasion. Il dit, non, c'est un costume qui est taché. C'est une nouvelle marque tachetée. D'accord? Non, tu sais pas, parce que tu n'as jamais su ce que c'est la propreté. Donc, quelqu'un qui a pris conscience de l'état d'être de la pureté, d'accord? Quand vous regardez un enfant, par exemple, il est pur. Ouais? C'est pas la même chose que quelqu'un qui a fait 50 milliards de bêtises. Ouais, il a une seringue là, tu sens qu'il a un problème, le type. Ouais, tu sens qu'il a vécu des choses. Donc, au contraire, il est pur, il s'est marqué. Shoot mes villes et tahara, c'est-à-dire l'état d'être de la séparation avec le matériel, ça donne cette pureté. Tahara, mes villes et des chassidoutes. Mais dans la tahara, cette pureté, elle amène à la chassidoute. C'est quoi la chassidoute? C'est de faire le plus dans les mitzvot. La tzidkout, être un tzaddik. Les gens, ils croient, être un tzaddik. Non. Tzaddik, c'est faire ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Faire la loi. Ça, c'est tzaddik. Les gens, ils disent, c'est extraordinaire. Non, c'est normal. D'être un tzaddik, c'est normal. Tzaddik, c'est tzedek, c'est la justice. De faire ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est tzaddik. Maintenant, plus que ce qui est marqué plus, tu fais plus. Là, t'es un chassid. D'accord? Maintenant, il y a des gens, ils veulent être chassid avant d'être tzaddik. Qu'on appelle un dérapage contrôlé, oui. Ça s'amène souvent dans un mur, ouais. Non. Tahara mevi l'edei chassidut. C'est-à-dire quoi? Celui qui a compris maintenant l'essentiel, et celui qui a compris cet état d'être de pureté, automatiquement, il va avoir une exigence dans les choses. C'est comme vous, par exemple, si vous êtes habitué à bien manger, et à vous habiller avec des bons habits, et avoir une belle voiture, donc vous avez des exigences. Pourquoi? Parce que vous avez des goûts qui sont élevés, ou le contraire. Si vous êtes habitué, à mettre des costards Conforama, en mélaminé, d'accord, ça vous dérange pas, donc, automatiquement, vous sentez pas, tu dis, mais ça te prend pas sous les bras, c'est 100% polyester, ça va, non? Bon, c'est pas grave, il a grandi dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si dans le matériel c'est comme ça, dans le spirituel aussi c'est comme ça. Comme quelqu'un qui est habitué à écouter de la bonne musique depuis qu'il est petit, on l'emmène à des concerts de classique, quand il écoute une fausse note, ça l'agresse. C'est pareil, quelqu'un qui parle, si à la maison on parle bien le français, donc quand on dit un gros mot, il est agressé. S'il vit dans une étable, ça le dérange pas. Bon, mon Dieu. Justement, on a élevé les cochons ensemble. Justement. Oui. Donc, ils sentent pas le problème. Ils c'est pareil. Il dit, à partir du moment, taharam et vidir chassidou, ça veut dire quoi? L'exigence du plus, elle vient chez quelqu'un qui a atteint un certain niveau de pureté. Parce que celui qui n'a pas la pureté, il n'a pas besoin du plus. Il est bien. Après, chassidout, mais via les idées à Nava. Alors maintenant, cette chassidout, le plus, dans l'accomplissement des mitzvot, amène à la modestie. Tu as quel rapport avec la modestie? Ah non, au contraire. Parce que c'est quoi le vrai problème? Ça, on l'a répété quelques milliers de fois au cours. Le vrai problème, dans la religion, en tout cas juive, c'est de savoir qui est le roi. C'est toi ou c'est Dieu? Si vous allez me dire, mais pourquoi j'ai commencé par toi? Faudrait dire, c'est Dieu ou c'est toi? Non, si on pensait que c'était Dieu, on serait tous des tzadikim. Mais comme on n'est pas très clair, oui, parce que si tu t'écoutes à toi, donc c'est toi le roi. Il y a le Shulchan Aruch et il y a toi. Tu dis, écoutez, moi j'ai faim. Bon, d'accord. Donc c'est toi le roi. C'est pas grave. Suffit d'être clair. Hein, qu'il soit clair. Dis-nous qui est Dieu, toi ou ah, tu dis Chazé Shalom. Non, je te pose la question. Dieu, il a donné la loi. Toi, tu dis la loi. Donc la loi, c'est toi le roi. C'est pareil. Il dit, à partir du moment où quelqu'un il a pris conscience qu'il y a un patron, donc automatiquement il devient modeste. Parce que c'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est de penser que c'est toi le patron. Donc ça amène à la nava, ça amène à la modestie. À nava, mais via les iratraites. Maintenant, la modestie amène à la peur de la faute. C'est quoi la crainte de la faute? C'est quoi iratraite? Quelqu'un, il a peur de faire des erreurs. C'est assourd, il fait attention à ça, il fait attention. Il a peur de se tromper. C'est quoi la crainte de la faute? C'est la prise de conscience de la grandeur de l'autre. Maintenant, quand je sais qu'Hachem il est grand, je fais attention à ce que je fais. D'accord? Comme dans la vie aussi, c'est comme ça. Quand tu respectes ton père, tu fais attention aux mots que tu dis. Quand tu respectes ta femme, tu respectes ton mari, tu fais attention à tes actes. Tu dis, après moi le déluge. Non, t'as la peur de ce que tu fais, des conséquences. Pourquoi? Parce que tu grandis l'autre, tu places l'autre haut. Donc comme tu te places haut, automatiquement tu fais attention à ce que tu fais. De la même manière, quand tu places haut à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu le places haut? Parce que t'es modeste. Donc comme t'es modeste, tu places haut à Kadosh Baruch Hu. Ah, pourquoi les gens ils placent Dieu bas? Parce qu'ils se prennent pour Dieu. Croyez-moi, n'aie pas peur, hein. S'il se permet de crier, s'il se permet de... Il se prend pour Dieu. Tu dis, mais... Et alors, quoi? Ah, t'as que le quoi. Comment ça, quoi? Mais bien sûr, de qui tu... C'est l'orgueil. Ouais, la Gemara, elle dit, celui qui est orgueilleux, c'est comme s'il offrait des sacrifices. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Un orgueilleux, il prend des sacrifices et il l'offre sur l'autel de sa divinité à lui. Il peut prendre sa famille, il peut prendre ses enfants, il peut prendre sa femme, il peut prendre son mari, il peut prendre ses employés... Il peut prendre la vie, il peut prendre le monde entier, pour son orgueil, il les brûle. Et il offre des sacrifices toute la journée à sa divinité personnelle. Après, c'est marqué, chassidout. On l'a déjà dit. Maintenant, iratret, mevil et dekdusha. Maintenant, la iratret, la crainte de la faute, elle amène à la sainteté. C'est-à-dire, de la même manière qu'il y a un degré de perfectionnement dans la distance que tu entretiens avec la matière de base, qui donne une certaine finesse d'esprit, comme on dit, il y a des gens grossiers, puis il y a des gens fins. C'est des gens qui sont plus dans la matière et moins dans la matière. Aussi, il y a une autre marche, d'accord? C'est que quelqu'un, à partir du moment où il a atteint la modestie, il a atteint la crainte de la faute, alors pour lui, on parle de sainteté maintenant. Avant, on parlait de pureté, maintenant on parle de sainteté, ça n'a rien à voir. La kedusha, c'est quoi? Si la pureté, c'est l'état d'être de, on a dit, c'est l'état d'être de la prishut, c'est-à-dire la séparation avec la matière. Alors la kedusha, c'est autre chose, c'est l'état d'être de la mitzvah. C'est que quelqu'un qui se sépare de la matière, alors lui, il rentre dans la pureté. Mais celui qui reste entièrement dans un monde de mitzvah, alors il atteint la sainteté. C'est pas la même chose. C'est une espèce de milieu qu'il a créé parce qu'il est entouré maintenant dans la kedusha. C'est l'état d'être de la sainteté. Maintenant, Kedusha, mais vit les rois HaKodesh. Celui qui a la sainteté, il arrive à être doté de l'esprit divin. C'est-à-dire qu'il arrive à la prophétie. Roi HaKodesh, mais via les Triatametim. Et maintenant, celui qui a l'esprit divin, alors il peut arriver à la résurrection des morts. Donc il est capable de faire revivre des morts. D'accord? Donc si vous avez envie de faire revivre quelqu'un, voilà, vous avez la recette. D'accord? Donc, il y a des gens qui disent, oh, je regrette, j'ai perdu. Voilà. Tu veux le faire revivre? Voilà. Tu as la recette. Qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, on peut lire. Vous voyez, j'ai lu avec vous cette braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair et une place là. D'accord? J'ai lu cette braïta avec vous. On peut la lire de manière totalement mystique ou on peut la lire, on va dire, entre guillemets, avec une approche un petit peu psychologique, comme on l'a fait ensemble maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un comprend que quelqu'un il peut démarrer de la Torah et arriver à la résurrection des morts. Mais c'est quoi la résurrection des morts? Alors nous on dit mais tu te rends compte, la neshama, elle est dans le corps et puis elle quitte le corps et c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui enlève la vie et un homme il peut redonner la vie, comment c'est possible? Comprenez, si c'était mécanique, genre tu branches la prise, ah, il est vivant. Mais la neshama, elle est partie, elle est partie. Comment tu vas faire revivre un mort? Alors il dit le je sais plus d'ailleurs. Aliyedei avodato midavek l'akadosh baruch hu, par son travail, par son service divin, midavek l'akadosh baruch hu, il va se coller à Hashem. Sheu mekor haim, qui est la source de vie. Vena aseu gamken mekor haim, et lui aussi il va devenir une source de vie, ou bekocho l'achayot metim, et il a le pouvoir de faire revivre les morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous on comprend bien que dans la vie il y a deux pôles. Il y a un pôle qui s'appelle la matière, et il y a un pôle qui s'appelle Dieu. C'est l'antimatière. D'accord? Maintenant, ou quelqu'un, il va s'approcher de la matière, et donc de la mort, parce que la matière, elle est liée à la mort. Ou alors, au contraire, il va se rapprocher de Dieu, il va se rapprocher de la vie. Donc ça, c'est la mystique. Maintenant, la psychologique, c'est pareil. Quelqu'un, il se rapproche de la matière. Donc, il devient matérialiste. Donc, il s'intéresse à des choses matérialistes. Donc, il met de l'espoir dans des choses qui n'arrivent pas à le combler. Donc, ils sont de plus en plus angoissés, parce qu'ils voient que ces espoirs, même quand il les a comblés, ils tombent dans le désespoir. Ça l'angoisse quand même. Donc, il sent que sa vie, elle est vide. Après, il trouve que sa vie n'a pas de sens. Et puis, il ne donne plus de sens à sa vie. Alors, il a plus envie de vivre. Et puis après, il a envie de mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça, après un bataille. Il a cru que le verre était plein, mais le verre était vide. Il a cru que le verre était plein. Imagine, tu es dans le désert. Et il y a un verre. Il est rempli à ras bord d'eau glacée. Vous savez, il y a une buée, là. Il y a une condensation sur le, c'est comme ils mettent dans les pubs, ils mettent des gouttes d'eau sur le shampoing. Comme si on allait boire le shampoing. Bon, c'est pas, ouais, ils mettent des gouttes d'eau. Ça donne soif. Une pomme avec des gouttes d'eau, un verre avec des gouttes d'eau. Donc là, tu as ton verre, tu t'approches, tu le prends, tu crèves de soif, ça fait 8 jours que t'as pas bu, tu prends le verre, tu fais comme ça. Il n'y a rien dedans. C'est-à-dire maintenant, c'est de l'eau sèche, c'est très spécial, c'est rare. Ouais. C'est la rama profonde. Exactement pareil. Tu vois une société, tu vois des couleurs, tu vois des ambiances, tu vois de la pub, du marketing, de khalwa. Tu rien, tu t'approches, il n'y a rien. Rien. J'étais dans le train hier ou ce matin, je sais plus. Je voyais un type à côté de moi. Il était en train de suivre les dernières nouvelles. Vous savez, l'actualité, la crise, il y a une crise mondiale là, en ce moment. Vous êtes au courant? Non? Une crise très très grave qui est en train de se... Ça s'appelle Love Story. Ouais. C'est d'accord? Et le type, il était là. Et oui, elle a été élue. Je sais pas comment elle s'appelle, l'autre Baha. Ouais. Alors, il était là et tout. Ah, oh, Élysée et tout. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense? Ah, oh, il était là et là. Alors j'étais en train de le regarder, je lui dis, elle c'est une baha. On l'a imprimé sur du papier baha, et il y a un baha qui lit. Je sais, c'est mystique cette histoire. C'est vrai, vous n'avez jamais eu l'occasion de rencontrer le vide. C'est abominable. Je vois que les gens ils se demandent, est-ce que le néant existe? Mais tu le côtoies tous les jours, t'as pas pigé encore. C'est zéro. Elle c'est une vide, elle est vide comme ça, elle est née ce matin, d'accord? Ouais. Ils en ont fait une vedette, je sais pas si tu vois, le vide vedette, d'accord, t'as repeint l'homme invisible, d'accord, hop. L'autre, il est vide aussi, dans son train de banlieue, comme ça, il espère un jour, il dit, et pourquoi pas moi? C'est vrai, je suis pas plus bahaké avec elle, au contraire, peut-être plus, d'accord. Non, si c'est ça qui sert à déterminer. Donc il se dit, pourquoi pas moi, donc il rêve. Donc un rêve, illusion, pour une personne, d'illusion, dans un but, illusion, un projet, illusion, tout. Le néant. Le néant, Rabotai. Les gens, ils sont la mystique, Nostradamus. Le néant, il est là. Il est en face de toi. Donc, qu'est-ce qu'il est? Il est mort, le type. Il est mort. Parce qu'il y a des gens qui participent. Bon, il y en a qui se font vider. Bon, mais il y en a qui participent même pas. Je sais pas si tu sens le truc. C'est, ils participent de manière virtuelle. Ils sont là devant, ils... Il paraît qu'ils vont sortir les télés en relief. Je vais voir si les gens, ils caressent les télés. J'attends ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Le vide dans le vide pour le vide. Ça, c'est quoi? C'est la mort. Le contraire, maintenant. Mais Korachaim, si la matière, c'est la mort, parce que pourquoi? Parce que tu mets ton espoir dans quelque chose de vide. Donc, tu mets ton énergie dans quelque chose de vide. Donc, tu cours après un verre, il est vide. Et tu le prends. Maintenant, t'as vu la sensation de vide que tu as quand tu prends un verre vide? Eh ben, c'est la même sensation. T'as vu un bon film. J'ai passé un moment. Bon, j'ai perdu du temps. Bon, alors, j'ai rien fait, quoi. Je suis mort. Ah oui, c'est ça. Oui. D'accord. Y a rien. Réa, ils appellent ça en anglais. Ouais. Le vide. T'as rien fait. Ils disent, c'est pour ça qu'ils s'angoissent, les gens. Pourquoi maintenant vous avez, avant il y avait un Coca et un film. Maintenant il y a un Coca, un Prozac. Pourquoi? Ben, le Prozac, c'est pour après le film. Quand tu te rends compte que c'était qu'un film. Donc, tu prends un Prozac et le film continue. Ouais. Donc, si on comprend ça, on comprend que ça, c'est la mort. Le contraire, de l'autre côté, il y a la vie. Maintenant, quelqu'un, il s'éloigne de la matière. Maintenant, il cherche le vrai. Après, il cherche l'essentiel. Après, il côtoie l'essentiel. Après, il développe dans l'essentiel. Après, il vit dans l'essentiel. Il nage dans l'essentiel. Il devient essentiel. Maintenant, quand il devient essentiel à Abotaï, puisqu'il devient essentiel, eh ben, il peut distribuer de l'essentiel. Un exemple. T'as la pêche aujourd'hui. D'accord? T'es fort, t'as réussi quelque chose, t'es content. Il y a un type qui téléphone, il est mort. Il dit, écoutez, j'en peux plus. Toi, tu lui parles. Tu lui redonnes de la vie. Comment t'as fait? Mais, c'est facile. Il a branché son portable sur toi. Il a rechargé. Vous comprenez ou non? Ça veut dire que toi, tu peux devenir une source de vie. Maintenant, Dieu est source de vie. Donc toi, tu vas vers Dieu, donc tu prends de la vie. Maintenant, l'autre, il prend de la vie de toi. L'autre, il prend de la vie de toi. Parce que pourquoi tu vas chez un sadique? T'as vu comment tu reviens? Tu dis, ah, ça m'a donné de la force. Eh, il t'a rien fait, hein, il est comme ça. Tu voudrais une bracha. Aslaha. Tu reviens, tu... L'autre, il a passé 4 semaines au club de gym là-bas, il a rien, il est naze. L'autre, il va 5 minutes chez le rav, il revient, il est comme ça. Alors? Parce que lui, il est mekochaim. C'est une source de vie. Parce qu'il lui-même, il est collé à la source de vie. Et toi, tu te colles à lui. Tu prends de la force. Est-ce que vous me suivez? C'est qu'au niveau mystique, oui, c'est vrai qu'il y a une logique très profonde, que quelqu'un, il peut réussir en fait à faire revivre un mort, et il est mort. Mais dans la vie de tous les jours, c'est aussi comme ça. C'est que toute la vie, c'est ce qu'on fait, ou on court après des verres vides, ou on court après des verres pleins. Maintenant, autant il y a une sensation abominable, extraordinaire, de boire un verre plein quand t'as soif. Mais je sais pas si vous avez déjà eu ce kiff. Non, vous savez, il y a des gens, ils mangent sans manger, ils boivent sans avoir soif. Mais il y a des gens qui ont soif, et ils boivent. C'est extraordinaire. Ils ont faim, ils mangent. C'est comme quand t'as une question pendant des années, t'as une question, tu dis j'ai une question. Tu poses la question, le type il répond. Je dis, mais Rabotaï, c'est Olamaba ça. C'est ça Olamaba? Oh là là. Tu dis, oui, vous êtes pas bien? Il dit, mais ça fait des années que je pose cette question, j'ai eu une réponse. Comme ça. C'est comme le verre, comme l'eau froide, elle coule comme ça. Ça veut dire quoi? T'as rencontré le plein. Et toute la vie, c'est comme ça. Ou tu cours après des verres vides, ou tu cours après des verres pleins. Rabotaï, celui qui trouve un verre plein, il est fou. Il profite pas. Ça traite à métier. Alors, si on comprend ça, on comprend que quelqu'un, parce que c'est ce qui est grave, en fin de compte, c'est quelques lignes, hein, ça fait un peu peur, c'est que, lui, il a écrit un livre avec, hein, le Messie de Charim. Mais il faut comprendre. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est des étapes. Des étapes. C'est comme une marche d'escalier. Et tu te rends compte que j'ai rencontré ma femme en haut de cet escalier. Ah bon? Il dit oui. Ma vie a complètement changé. J'ai rencontré la Torah en haut de cet escalier. Ma vie a changé. J'ai rencontré, l'homme qui m'a sauvé la vie en haut de cet escalier. Ma vie a changé. Tu dis mais où est cet escalier? Il est là l'escalier. C'est des étapes. C'est grave ce que je veux vous dire. C'est des étapes. Ça veut dire quoi? C'est que là la Torah, elle nous donne un secret abominable. Elle nous dit, ce sont des étapes dans un cheminement. Maintenant, si vous allez me dire, mais c'est évident, on vient tous les mardis, on sait très bien qu'il faut faire un travail et il faut évoluer. Moi, à chaque fois que je lis ça, je tombe en arrière. Pourquoi? Parce que je dis, ce qui est marqué, Rabotaï, c'est que c'est une logique mécanique. C'est qu'à partir du moment où toi, t'es d'accord de suivre une certaine démarche, tu sais que cette démarche, elle va produire un certain résultat. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous, qu'est-ce qu'on croit, Rabotaï? C'est ce qu'on croit, nous. Nous, on croit à la magie. Nous, on croit, je fais rien. Je produis rien. Et un jour, le bonheur, il va venir. Un jour, je vais rencontrer l'amour. Un jour, la roue de la fortune, elle va tourner. Un jour. Pourquoi t'es né là? Et je vous ai dit ça déjà. Les gens, moins ils sont religieux, plus ils sont mystiques. C'est incroyable. Vous pouvez pas imaginer le nombre de gens qui viennent me dire, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez, Rav? Voilà, je l'ai rencontré 3 fois à la station du RER Aubert. Et il s'appelle Aubert. Michoum. Ouais? Alors, qu'est-ce que je dois croire? Juste quand le RER il est arrivé, il m'a regardé. Alors, c'est pas des signes ça? Je dis oui, c'est des signes. Ça s'appelle une crise de délire. C'est des signes très clairs. C'est une crise de délire. Enfin, Pourquoi les gens ils cherchent des signes? Maintenant quand tu leur dis, mangez cache, jamais tes filles. Non. C'est de la religion, ça, c'est mystique. Mais t'as vu ta mystique à toi, les gens ils s'inventent une mystique comme ça. Non. Tout seul comme ça. Il arrête pas. Tu tout à l'heure, je sens que c'est lui. Mais il est marié. Ah bon, bah je croyais. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, Rabotaï, c'est marqué que c'est pas magique. C'est marqué que c'est pas un miracle. C'est marqué que c'est pas par hasard. C'est marqué que c'est des étapes. Une étape, deux étapes, trois étapes, quatre étapes. Maintenant, pourquoi les gens, ils préfèrent les miracles? Parce qu'ils veulent pas se casser la tête. Regardez les gens, ils font tout, va. Trois jours après, ils te disent, est-ce que nous pourrions aborder ensemble la Kabbalah? Je dis, mais avant-hier, tu mangeais du cochon. Aujourd'hui, tu veux faire de la Kabbalah. Tu sens pas qu'il y a un petit peu de, un petit saut un peu. Mon âme le sent, je sens que je suis pénétré par la vérité de la Torah. Et j'ai intimement besoin de me réconcilier. Je dis, mais, tu sais, peut-être il faudrait d'abord que tu te réconcilies avec ta conscience. Après, tu te réconcilies avec ta volonté. Après, tu te réconcilies un petit peu avec ta psychiatrie. Est-ce que ça serait bien? Après, tu vas peut-être te réconcilier avec ton milieu, hein? Ouais, peut-être avec tes parents, ça serait pas mal, c'est, ouais. Peut-être avec ta communauté, doucement, oui. Parce que là, en Bretagne, je sais pas si tu vas évoluer vite. Et puis après, tu verras si tu te réconcilies avec Dieu. Et puis là, on commencera un petit peu à parler, si tu veux, du roumache. Hein? Ah, il dit, mais je suis pressé. Il me dit, j'ai 40 ans de retard, donc je veux rattraper le temps. Mais on peut pas rattraper le temps comme ça. Je sais pas si vous sentez le problème. C'est comme si t'en as une fusée. Tu démarres, vous savez, la navette spatiale, elle démarre. Donc il y a 174 millions de kilos de pression, c'est comme ça, écrasé. Tu dis, ah, j'ai oublié la photo de ma femme. Heureusement, il y a une autre navette qui revient sur la Terre. Donc toi, t'es en plein décollage, une pression, je vous dis, de 13 gigatonnes. Tu dis, c'est pas grave, justement, il y a une navette qui revient dans l'autre sens inverse. Tu ouvres la porte et hop, tu sors, tu rentres dans la deuxième navette. Alors le cosmonaute, il dit, où tu vas là? Il dit, ben je vais dans l'autre parce que j'ai oublié la photo de ma femme. T'as pas compris? Si tu sors là, tu vas exploser. Tu vas t'éparpiller. T'as 13 gigatonnes de poussée, là. Là, t'es dans un milieu pressurisé, mais tu vas sortir dehors. Mais tu vas être déchiqueté. C'est exactement pareil. Les gens, ils lèvent la tête comme ça. Ils viennent à peine de savoir que la kippa existe. Ouais. Ils disent, maintenant, je voudrais pénétrer les profondeurs du savoir. Dibli Neder. S'en fout. Ils veulent faire des raccourcis à Botaï. Encore une fois, le magique. Encore le côté magique. On lui dit, réfléchis, tu vas trouver une solution. Il dit, non, je vais aller voir une cartomancienne. On lui dit, casse-toi la tête. De toute façon, si t'as le problème, t'as la solution. Non. Il téléphone. SOS, magie, je sais pas quoi. Il fait sur la FM, là. Il écoute. Donnez-moi trois chiffres entre 0 et 12. Vous êtes, donc d'après l'astrologie chinoise, vous êtes scorpion ascendant gratteur. C'est très rare. Arrête la magie, arrête. Et croyez pas, c'est pas des gens nia, c'est des gens qui ont beaucoup réfléchi, beaucoup. Ils en ont marre, maintenant. Le rationnel, c'est pas pour l'essentiel. Ils veulent rentrer dans le mystique. Mais le mystique par un raccourci? Ici, Rabotaï, c'est marqué qu'on peut tout atteindre, mais seulement c'est des étapes. Regardez, par exemple, un funiculaire. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous allez à la montagne. Il y a une pente comme ça. Le train, il pèse 40 tonnes. Tu dis, comment il va monter là-haut? C'est pas possible. La pesanteur. C'est vrai, non? C'est impossible. Comment va monter là-haut? Tu dis, le funiculaire, il monte là-haut. Tu dis, je te crois pas. Attends, viens. Et tu regardes, il y a les rails. Et en dessous les rails, il y a des barres comme ça. Et en dessous le train, il y a une roue avec des crochets. Et un crochet, et deux crochets, et trois crochets. Un Botaï, quand tu t'accroches, tu montes. Mais c'est doucement. Mais tu montes. Les gens, ils veulent pas. Les gens, ils disent, je suis en bas, 1, 2, 3, je suis en haut. Je dis, alors, n'ouvre pas les yeux. C'est pas possible. C'est pareil dans le couple. 1, 2, 3, je suis heureux. Non. Faut travailler, faut discuter, faut s'ouvrir, faut s'investir, faut... Pourquoi? 1, 2, 3, je suis heureux, ça marche pas. Il regarde la photo de mariage, il dit, oh, qu'est-ce qu'on était bien. Ça a pas duré longtemps, hein. Ouais. Non. Faut travailler. Ici, Rabotaï, c'est marqué. C'est un travail. Il y a des étapes. 1, 2, 3. Oh, première, deuxième. Oh, ça dépend des tempéraments. Moi, j'ai une âme très sensible. Je peux peut-être sauter 4 étapes. Non. Imagine-toi maintenant. Tu te lèves le matin, tu dis, tiens, je suis en forme, je vais aller au JO. Oh, détends-toi, là. Si, je vais le faire le 400 mètres haies. Détends-toi. L'autre, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne. Rien que pour cette compétition, ça fait 4 ans qu'il s'entraîne. Il se lève tous les matins, musculation, préparation psychologique. L'autre, il se lève le matin, il dit, tiens, je me sens fort. Je vais prendre 2 œufs, je vais éclater. Tu vas rien éclater, tu t'assois, tu te tais. Tu vas éclater. Ah, jamais il y a un haham qui descend. Jamais vous avez eu un type, il descend là-bas sur la piste, il dit, allez, je cours avec Carl Lewis. Jamais. Oui? Alors expliquez-moi, comment un type, il se lève ce matin de la cache-route, il se lève ce matin, il s'est levé ce matin, il a dit, tiens, je vais manger gachère. Peut-être, hein. Et il vient, il veut apprendre la Kabbalah. Mais tu te prends pour Carl Lewis ou quoi? C'est impossible, en beauté. Ici, c'est marqué. C'est des étapes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit rentrer, bien que c'est tout spirituel, on doit accepter que dans toute la vie, on passera par des étapes. Celui qui refuse l'étape, c'est pour ça qu'il souffre. Celui qui refuse le crochet, pour ça qu'il souffre. Celui qui refuse la démarche. Excusez-moi, il y a une place là. Il y a une place. Donc, juste là. C'est pour ça qu'il souffre. Parce qu'il voudrait prendre des raccourcis. Oui. Il voudrait que tout aille vite. Et c'est pour ça qu'il souffre. Encore une fois, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il court après un verre qui est vide. Prends conscience. Oui. De tes obligations. Et automatiquement, tu vas avancer. Et si tu vas dire, où c'est marqué ça? C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est quoi? C'est marqué vi'it kadashtem, vi'item kedushim. Alors là, c'est grave. Maintenant, je viens de vous expliquer pendant une demi-heure qu'un homme doit faire ses efforts. Oui. Après, je vous dis, il y a un deuxième principe qu'il faut avoir en tête quand on est juif, c'est que le résultat n'est pas le fruit de tes efforts. Ah, ah. C'est un truc bizarre. Tu vas me dire, mais je comprends pas, tu viens de m'expliquer qu'il faut se casser la tête, qu'il faut se casser le corps, qu'il faut se casser les midot. Mais non, tu me dis, oui, mais quand on est juif, on sait qu'au fond, toi tu ouvres ton magasin, mais c'est Dieu qui envoie la parnassa. Toi tu vas à la guerre, mais c'est Dieu qui envoie la victoire. Toi tu éduques tes enfants, mais c'est Dieu qui leur donne la chorma. Alors, à quoi ça sert ce que je fais? À Botaï, c'est incroyable. Toute la vie, c'est comme ça. Toute la Torah, c'est ça. Nous, on fait un effort et Dieu, il envoie le résultat. Et celui qui croit qu'il détient le résultat, c'est lui qui est déçu. Alors, qu'est-ce que tu m'as expliqué pendant 2 heures? Ah, je t'ai dit, regarde, il y a des étapes. Tu fais un effort. Mais quand tu arrives à l'étape, la satisfaction de l'étape, le résultat, c'est pas toi qui te le donne. C'est Dieu qui le donne. Pourquoi? C'est marqué, vi'it kadashtem, vi'item kedushim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Ils disent les commentateurs, évidemment, si vous vous sanctifiez, eh ben vous êtes saints. Comprenez ou non? Je suis rentré dans la piscine et j'étais mouillé. J'ai dit, ben, quel hidouche! Je suis rentré dans la piscine et j'étais mouillé. Ça, c'est marqué. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Non, Rabotai, c'est un grand hidouche. Parce que toi, tu te sanctifies, mais Dieu, il envoie la sainteté. Et si vous allez me dire, oh, mais alors, c'est pas comme ça dans la vie. Dans la vie, c'est la même chose, Rabotai. Vous savez comment on appelle ça en français? On appelle ça les strates de maturité. Vous envoyez un enfant à l'école, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, votre professeur? Il dit, écoutez, votre fils est très intelligent, mais il a un problème de concentration. Tu dis, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien à faire. Mais comment ça, il n'y a rien à faire? On peut le punir, on peut l'écraser, on peut le massacrer, on peut l'encourager, on peut l'aimer, on peut le... Il dit, c'est une question de maturité. Ah, il dit, comment on fait? Il dit, c'est comme ça, ça vient. Ah, de la mystique. Il dit, ça va venir un jour, il va faire, il va se mettre à travailler. C'est un stade de maturité. C'est pareil. Alors toi, tu lui donnes un problème de mathématiques, un programme de mathématiques, hop, il a une maturité mathématique. Tu fais un cours de Gemara, hop, il a une maturité Gemara. Tu fais un cours de Teshuva, hop, il a une maturité Teshuva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un effort qui est fourni, mais le résultat, tu le maîtrises pas. Regardez, celui-là, il a pas la maturité de son couple. Il a pas, il comprend pas. Il faut béchif, il faut qu'il divorce. Ouais. Il faut qu'il aille ailleurs. Et maintenant, il va avoir une rama, il va dire, j'avais une femme de folie. Il n'a pas de maturité. Il se rend pas compte. Quand est-ce qu'il va savoir? Quand il va prendre la treha. Comprenez? C'est pareil. L'autre, il dit, fais la vidange. Allez, je t'en prie. Fais la vidange. Mais c'est une Mercedes. Fais la vidange. Il dit, j'ai tué le moteur. Eh ben, voilà. Alors. Mais je suis prêt à faire la vidange. Non, non, non. Il va falloir vidanger ton porte-monnaie maintenant. Faut acheter une autre voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, malheureusement, la maturité, et c'est quoi la maturité? En vérité, c'est le côté un peu magique. C'est le côté qu'on contrôle pas, qu'on maîtrise pas. Et c'est quoi? C'est le résultat. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi on envoie les enfants à l'école? Pourquoi Hachem, il envoie le mariage? Pourquoi on envoie des enfants? Pourquoi faire? C'est toujours pour atteindre un certain niveau de maturité. Ça s'appelle les strates de maturité. Un niveau, deux niveaux, trois niveaux. Le travail, il a développé une certaine maturité. Chaque fois. Maintenant, essayez de comprendre. Moi, je fais un travail. Et il se déclenche un résultat. Et si vous allez me dire, mais alors c'est mécanique, je travaille, résultat. Non, illusion d'optique. La preuve, regarde l'autre, il fait le même travail, il a pas le même résultat. Celui-là, il a le même couple, il a pas le même résultat. Celui-là, il a les mêmes parents, il a pas le même résultat. Alors, mon frère, ça veut dire que tu détiens pas le résultat. Tu n'as pas le pouvoir du résultat. Tu as le pouvoir de l'effort, mais pas du résultat. Alors maintenant, comment on va vivre avec cette ambivalence? D'un côté, on nous dit, faut se battre, il faut y aller. Attention, c'est pas la peine de rêver, hein. Je vous dis tout de suite, faut se battre. Mais, même si tu te bats comme un malade, tu maîtrises pas le résultat. Alors, j'ai plus envie de me battre. C'est vrai ou non? C'est vrai et c'est faux. Regardez dans le business. Combien de fois vous voyez des gens, ils font de l'argent. Tu dis, mais, franchement, c'est grâce à toi? Il dit, franchement, tu veux que je te dise? Non. Je sais pas. Il m'appelle. Je leur dis, bon, voilà, je vends ça, bah. Il dit, ben, j'en veux, combien? 100 000. Bon. Il dit, bon, je vous l'ai fait livrer, ouais. Il y a un acompte de 40%, donc ça fait bien 1 700 000, ouais, il donne. Il dit, je te dis, franchement, je comprends rien. Honnête, les gens honnêtes. Les gens, bah, ils se la jouent. Ils disent, ouais, j'ai fait un contrat ce matin. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi il t'a appelé à toi? Il y a 50 000 équipes qui font la même chose. Pourquoi t'as appelé à toi? Celui qui est honnête, il sait que ça dépend pas de lui. Celui qui est malhonnête, il se prend pour Dieu. Il dit, ouais, j'ai fait une campagne de folie, j'ai attrapé le client, je l'ai manipulé. T'as rien manipulé. Rien. Rien du tout. Parce que Dieu, d'un jour à l'autre, il prend ton meilleur vendeur, il fait ta boîte à toi, il la fait en face. Et il te regarde mourir. Tu dis, alors où est le marketing? Il a ouvert une nouvelle boîte, ça s'appelle Net Zero. C'est une nouvelle boîte, c'est une boîte internet. Net Zero, elle s'appelle. C'est qui sait qui ne dépassera jamais le zéro. Ça veut dire quoi? Plus tu t'y crois, on dit en français, tu te la joues. Tu te la joues. Alors Dieu dit, je vais jouer avec toi. On va jouer maintenant. Toi, tu te la joues pas. Tu restes honnête. Ça veut dire quoi? Tu restes modeste. Tu dis, écoute, il y a de l'argent, bah, au Hachem, mais je suis franchement, je travaille, je suis là, j'ouvre le magasin, mais franchement, j'amène les clients. Dis-moi, la banque, comment elle m'a ouvert une ligne de crédit d'un milliard? J'ai rien, je lui ai rien donné. Comment c'est possible? Rien que tu, il se lève la nuit pour rigoler tellement il se dit, c'est pas possible. J'ai même pas de maison, j'ai rien. J'ai été là-bas, je l'ai parlé, il m'a ouvert un milliard. Alors maintenant il va dire, ouais mais tu comprends, moi j'ai su lui parler au banquier, toi tu sais pas y faire. Arrête Charlot, t'as pas vu que c'est Dieu qui t'a ouvert la porte? Vous comprenez? C'est pareil, tu marches dans la rue, tu t'assois pour en prendre un café, il dit, tiens tu veux pas un local? Il dit, ah c'est pourri, regarde il y a des planches, ça fait 10 ans. Il dit, justement, peut-être va savoir, va parler avec le type. Ah ben c'est 30 000 francs. Hein. 30 000 francs, il dit, ouais 30 000 francs, un pas de porte, c'est cher quand même. Il dit, oui mais il y a un mur. Et alors? Ben il y a un mur. Pas quoi? Ben il y a un mur. Bon, alors, il y a un mur. Ah bon. Il prend, il casse le mur, 40 000 mètres carrés, dans le marais. Personne n'a jamais cassé le mur. Ah, tu dis, casse le mur. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, il va raconter à ses copains que lui, c'est un haram, qu'il a sondé tout le monde, qu'il a vu tous les marchés, qu'il maîtrise le marché immobilier. Tu veux dire mieux, les plus grandes choses dans la vie, elles viennent toujours par le fait qu'on n'a pas pris la décision. Tu prends pas la décision. C'est pas vrai. Tu prends pas, ça vient. Le mariage, les enfants et la parnassa, c'est pas toi qui décide. Tu vois de tes yeux. Non, si tu dis non, mais moi je l'ai choisi, moi. Eh ben, elle aussi, elle va te choisir, elle va s'occuper de toi. C'est pas entre tes mains. C'est marqué ça. C'est-à-dire, donc, premier élément, c'est qu'il y a une mécanique. Il y a une place. Vous avez une place à côté de vous, là? Levez la main s'il y a une place. Voilà, approchez-vous, il y a deux places là. Donc, premièrement, c'est une mécanique, on passe par des étapes. Deuxièmement, il y a un postulat qu'on accepte, qu'on ne maîtrise pas le résultat. Et si vous allez me dire, moi je peux pas vivre comme ça, sache que de toute façon dans la vie, tu vis comme ça. Dans n'importe quoi, hein. Tu élèves tes enfants, t'as aucune garantie, tu dis, mais je l'ai mis la meilleure école, il y a pas de garantie. C'est comme ça. N'importe quoi, il y a pas de garantie. On travaille, pourquoi? Pourquoi on n'a pas de garantie? Parce qu'il a libre arbitre. Nous, qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait que nos enfants, ils aient pas le libre-arbitre. Nous, on revendique le libre-arbitre. On dit, mais moi, je veux être libre. Moi, je veux envie de faire ma vie. Mais les enfants, non, ils ont pas le droit. Eux, ils doivent être bien. Ils doivent être des gens honnêtes. Ils doivent faire plaisir à leurs parents. Et ils ont pas envie, eux. Ils ont envie de faire comme toi. Ils ont envie de faire leur vie. Donc, c'est un postulat que quoi? Que même si tu mets tout en place pour que ça se passe bien, possible que ça se passe mal. Ah, tu vas devenir fou. C'est comme ça la vie, mon frère. C'est comme ça. Pourquoi l'autre, il a un supermarché, il y a 24 caisses, il y a pas un client? Il va enlever les caisses, il va faire un endroit juste pour la clim. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas un mec qui rentre. C'est comme ça. Ici, c'est marqué quoi? C'est marqué qu'une personne, elle comprend qu'on maîtrise pas le résultat. Ah, maintenant, troisième postulat qu'il faut avoir en tête, c'est marqué « Kol agadol michavero itzro godel imeno ». Tout celui qui est plus grand que son ami, son yetzera, il est encore plus grand. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, chacun d'entre nous, il vit dans un couloir. C'est quoi ? Toi, t'es là, il y a une espèce de tuyau transparent qui te met en contact avec Dieu, comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on fait des erreurs, on regarde le couloir de l'autre. On dit « Ah, mais lui, il a de la chance, il a un couloir vachement bien aménagé. » Ah, lui, il a un couloir tout noir. Ah, c'est dégoûtant. Hein. Oh, il n'y a même pas de couloir, lui. Alors, Bottaille, c'est pas la peine de comparer. C'est pas la peine de rentrer. C'est pas la peine de jalouser. C'est chacun son couloir. Toi et ta conscience et Dieu. Hop, tu te débrouilles. Tu dis, ouais, mais moi, j'ai vu des religieux. Toi et ta conscience et Dieu. Parce que les gens disent, oui, mais bon, même j'ai vu, même des religieux, malgré qu'ils ont leur religion, si t'es seul avec un Sefer Torah sur une île déserte, il n'y a personne, il n'y a que toi et le Sefer Torah. Et Dieu, il vient, t'entends une voix qui te dit, accomplis les mitzvot. Tu veux dire, ouais, mais mon voisin, Benaïch, eh ben, il les a pas accomplis. Il n'y a pas de voisin. Il y a toi et un Sefer Torah sur une île déserte. Tu vas aller faire les mitzvot. C'est exactement pareil. Au fond, je vous le dis, hein, il y a l'ambiance, il y a le club, il y a la communauté, il y a la sympathie, mais au fond, à l'intérieur, chacun, il est seul. Faut pas l'oublier, ça, Rabotai. Chacun est seul. Maintenant, c'est pas seul, Rama, comme ça. C'est seul. Ils appellent ça la folitude. Ah, je peux pas. Normalement, quand tu as construit ton être intérieur, ça ne doit pas te faire du mal d'être avec toi-même. C'est les gens qui disent, moi, dès que je suis seul, moi, j'ai l'angoisse, j'ai besoin du monde, j'ai besoin de l'ambiance, j'ai besoin de j'aime. Oh, t'es pas une jacuzzi, t'es une personne. C'est-à-dire quoi? Il y a toi-même, en tant que personne. Après, il y a toi en tant que, par exemple, en tant que femme, en tant qu'épouse, toi en tant que mère, toi en tant que fille. Tu es quatre personnes. C'est pareil. Tu es un homme, tu es moi, tu as ton rôle d'époux, ton rôle de père, ton rôle d'enfant. Tu as ton rôle de patron. On a plusieurs rôles. Mais le rôle du moi, faut jamais l'oublier. Maintenant, il y a des gens qui disent, moi, j'ai sacrifié mon moi pour mes enfants. Donc, ils croient que la mère, elle remplace le moi. L'autre, il dit, moi, je me suis sacrifié pour mon mari. L'autre, il dit, je me suis sacrifié pour ma femme. L'autre, il dit, moi, je me suis sacrifié pour mes parents. Mais t'as pas le droit de faire ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'en vérité, j'ai triché. L'image, elle est pas comme ça. C'est un arbre. Ça, c'est le moi. Et ça, c'est les branches. Donc là, il y a l'époux. Là, il y a l'époux et l'épouse. Là, il y a parents. Ouais. Et là, il y a enfants. C'est là, c'est des branches que tu portes. Mais si le moi, il y a pas de moi. Ça veut dire quoi? Tu dois pas t'ennuyer seul. Il n'y a plus de place. Tu dois pas t'ennuyer seul. Tu dois être bien avec toi-même. T'as des choses à dire, t'as des choses à faire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils essaient de combler des vides. Alors, comme ils comblent des vides, eh ben, il y a toujours des vides. Comme quelqu'un, tu lui dis, tu peux porter 20 kilos? Il dit, comment je vais faire pour porter 20 kilos? Alors, il dit, fais de la musculation. Non, j'ai une idée. Je vais enlever 20 kilos, je vais faire un trou, et dans le trou, je vais mettre les 20 kilos. Non, tu vas faire de la musculation, et tu vas porter 20 kilos. Après, tu vas faire de la musculation, tu vas porter 80 kilos. Mais toi, tu restes la même personne. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils comblent des vides. Après, le vide, il s'en va. Enfin, ce qui comblait, ça part. On dit, oh, j'ai un creux. J'ai un vide. Non. Toi, tu dois être plein. Toi, tu dois te remplir. Toi, tu dois être toi-même. Im en anili mili. C'est pas ta vie qui est remplie. Les gens disent, moi, j'ai une vie très remplie. Ça veut dire que oui, ils sont vides. Toi, tu dois être plein. Et tu peux supporter une vie remplie. Parce que tu es plein. Mais si tu es vide et que ta vie est remplie, ça veut dire que toi tu es vide, c'est pas possible. Il s'est marqué ça. Il dit, chacun d'entre nous, il est face à lui-même et face à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il attend de lui qu'il devienne lui-même. Comment il le fait? Étape par étape. Ça va? C'est bon ou non? Quatrième postulat qu'il faut avoir en tête. Ce soir, c'est la soirée des postulats. C'est quoi? C'est marqué « Mi ya'aleh be'ar Hashem » ou « Mi yakum bimkom kocho ». Qui est-ce qui va monter sur la montagne d'Hashem et qui va se maintenir dans son endroit saint? Ça veut dire, non seulement il faut faire des efforts pour monter, mais en plus, il faut faire des efforts pour se maintenir. Les gens y croient que quand on a atteint un certain niveau, on garde son niveau. Non. Tu vois, ça t'a coûté pour devenir ce que t'es devenu. T'es monté. Ouais, imagine-toi maintenant, t'es monté. Alors on dit, t'es tendu. Alors si tu coupes, qu'est-ce qui se passe quand on coupe un élastique? Ça repart des deux côtés. Vous avez jamais vu ça? Une personne, elle est calme, elle est calme, elle est calme, elle est calme. Elle est calme. Si tu prends des tranquillisants, quoi. Non, pas du tout. Je comprends tout à fait que chacun le doit d'être et d'exprimer et de se développer, de s'épanouir et de respecter, de rababé. D'accord. Tu la piques un peu, elle explose une bombe atomique. Tu dis, oh, c'est dédoublement de personnalité ou quoi? C'est une autre personne. Non? Pourquoi? Parce que comme ça lui a coûté beaucoup pour devenir, alors quand elle craque, elle retourne en arrière. Nous, on croit encore une fois, quand on atteint un niveau. Non! Il y a deux gymnastiques. Il y a une gymnastique pour atteindre un niveau. Et il y a une gymnastique pour maintenir le niveau. S'il faut entretenir. Comme quelqu'un, tu dis, c'était une grosse tête. Celui-là, il était avec moi. À la fac, c'était une grosse tête. Mais à 35 ans, tu le trouves complètement baha. Tu dis, c'est pas bien, là? Mais je me rappelle à la fac, tu étais tout le temps en train de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté la machine. Faut pas arrêter la machine. T'as 30 ans, t'as dit ton doctorat, Mazal Tov. Allez, vas-y, commence à écrire un livre. Développe un projet. Vas-y, construis un système de développement. Vas-y, continue, continue, continue. N'arrête jamais. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent. Ils disent, j'ai eu le doctorat. Ils font... On dit en français, ils se dégonflent. Alors, voilà, ils deviennent bêtes. Parce que si la réflexion, c'est ce qui t'a rendu intelligent, la non-réflexion, c'est ce qui rend bête. Alors, faut tout le temps continuer. Pourquoi il y a une mitzvah d'étudier la Torah depuis la bar mitzvah jusqu'à la mort? Si je t'en prie, ça y est, les chacham, qu'est-ce qu'il a encore besoin? Parce qu'il sait que s'il arrête d'étudier, il va devenir bah, ça descend. Je te dis, ça monte, ça descend. Et tu vas me dire, mais comment ça peut descendre? Je te dis, mais comment c'est monté? C'est le même chemin. Ça veut dire quoi? C'est que quelqu'un, il doit se battre pour maintenir sa madriga, son niveau. Les seuls qui n'ont pas besoin de se battre pour développer les niveaux, c'est les anges. Pourquoi? Parce que eux, ils naissent avec une madriga. Ils sont créés avec un niveau. Donc comme le niveau n'a pas été acquis, donc ils n'ont pas besoin de se battre pour le maintenir. Mais celui qui a acquis quelque chose pour le maintenir, c'est pareil. Tu vois celui-là. Tu dis, c'est un père. Ça, c'est un père. Ça. Il se conduit comme un gamin. Comment de père, il est devenu gamin? Parce qu'il s'est pas battu pour rester un père. Tu maintiens ta conscience. Tu es un patron. Pareil, tu es une mère. Tu es une femme. Tu es une grand-mère. Tu te maintiens, tu travailles. Si tu travailles pas, tu peux redescendre à la gamine. Tu dis, mais c'est une réaction de gamine. Comment t'as une réaction de gamine à 64 ans? Elle dit, mais, ben, je me suis lâché. Tu veux que je te dis, je me suis lâché. Pourquoi, regarde, elle dit. Alors, le Zohar, il dit, Shomer Nishmato Akedusha. Quelqu'un, il tient sa Neshama. T'as une Neshama, c'est un fluide existentiel. Tu le tiens. C'est toi qui maîtrises. Ça s'appelle un adulte. Ou tu dis, écoutez, ben, tu te dis, eh ben, j'en peux plus, voilà. Ben, maintenant, je me laisse aller, voilà. Je maîtrise plus rien. Je sais plus ce que, j'en ai marre. J'en ai marre de me prendre la vie, j'en ai marre d'être un adulte, j'en ai marre. Alors, elle devient une gamine. Et tu dis, t'as fini ta crise? T'as fini? Alors, s'il te plaît, tu remontes dans la voiture et tu roules. Allez, roule. Et tu dis, ben, on peut pas s'arrêter avec toi. On n'a pas le droit de craquer. Tu veux que je te dise, de vous à moi, qu'est-ce qui est plus dur? De continuer ou de redémarrer? C'est de redémarrer. Alors tu veux un conseil? T'arrêtes pas. Parce que quand tu vas redémarrer, tu vas être fatigué. Tu vas être crevé. Tu dis, j'en peux plus. Alors ne t'arrête pas. Vous comprenez ou non? Donc il faut se maintenir. Trouve des raisons. Tu le fais parce que c'était bien. Tu le fais parce que t'as envie. Tu le fais parce que t'es obligé de le faire. C'est pas grave. Rien continue. Pourquoi? Et maintenant, ce qu'on est en train d'aborder, c'est quoi? C'est que Rabbi Pinchas Ben Yair, il a donné des éléments. On a dit ces éléments, c'est des étapes. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que ces étapes, elles sont reliées les unes aux autres. Qu'est-ce qu'on a appris de là? La logique de la perpétuité. C'est quoi? Ce sont des choses qui durent. J'ai un hidouche incroyable. Écoutez bien ce que je vous dis. Le secret, c'est la perpétuité. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est des étapes. Donc évidemment que quand on passe d'une étape à l'autre, on évolue. Non, t'as pas compris. Ce qui te fait évoluer, c'est le fait qu'il n'y ait pas de coupure. Les gens, ils comprennent pas ça. Par exemple, toi tu dis, tiens, je vais faire un an de droit. Je vais faire un doctorat de droit. Tu fais un an, après tu dis, bon, je pars un an en Bolivie, et puis après je me remets à fond. Zéro. Tu dis, bon, je fais pas je vais faire juste un petit BTS. Je fais 6 mois de BTS, après je lui dis, tu te rends compte qu'en Angola, toutes les minutes, tu peux vacciner un petit enfant. Alors je pars en Angola, 3 mois. Il revient le BTS. Même pas en Angola, hein, qu'il est tombé amoureux de la voisine. C'est pas loin, c'est 2 tables. tout pendant 6 mois, il travaille 6 mois. Maintenant, elle le regarde même pas. Elle dit, Virginie. Mais t'es sourde ou quoi? Il est malade ton copain là, qu'est-ce qu'il a? Il arrête pas de m'écrire des mots. Il arrive au BTS, il prend la feuille, il écrit dessus. Virginie. Alors qu'est-ce qui marque l'examinateur? Bulletin vierge. Qu'est-ce qu'il fasse avec lui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que quelqu'un il avance, on a expliqué, ça passe par des étapes. Chacun il a son chemin. Mais au fond, le secret c'est quoi? C'est la perpétuité. Il s'arrête pas. Pas de coupure. Pourquoi? Parce que les gens ils croient, une coupure, c'est pas grave, je refais un nœud, je redémarre. Une coupure, l'élastique, tu coupes un élastique. Ça demandait à un chirurgien, l'opération la plus dure c'est laquelle? C'est le tendon d'Achille. Parce que quand tu coupes le tendon d'Achille, il se rétracte. Tu peux pas le recoudre. Parce que quand tu le recoues, faut le tirer. Quand tu le tires, il a pas le temps de cicatriser, il repart. Très dur. Une opération très dure. Exactement pareil. Toujours, dans ton couple, tu as des problèmes, il y a des discussions. Attends, ne va pas jusqu'à la rétraction. Parce que quand la personne, elle va se rétracter, on va la rattraper maintenant. Maintenant qu'elle est vexée, maintenant qu'elle, elle veut plus parler. Maintenant tu dis, bon écoute, maintenant on a vidé, les gens ils disent, écoutez, nous on vide notre sac, et après on parle. Maintenant tu lui as détruit le pare-brise, tu dis, écoute, maintenant, on va discuter. Là, t'as dit avant. Je t'en voulais parce que tu me parlais jamais. Mais maintenant, avec le mal que tu m'as fait quand tu m'as parlé, mais je vais t'en vouloir parce que tu m'as parlé. Donc, tu... C'est pas possible. Parce qu'il dit, Rav Dessler, il faut jamais arriver à des extrêmes. Tu vois que ça va aller très mal, ça va aller très loin, c'est pas la peine. C'est pareil. Tu dis à quelqu'un, tu me donnes l'argent, il dit, tu lui as prêté 10 000. Tu dis, tu mens les 10 000. Il dit, je te dois rien. Il m'a pas dit, je te les dois, je vais te les rendre plus tard, je vais pas te les rendre, je vais te les rendre. Il dit, je te dois rien. C'est-à-dire, tu rentres dans une extrême. Tu dis, d'accord. Il dit, Rav Dessler, faut jamais rentrer dans les extrêmes. C'est pas vrai. Faut jamais rentrer dans les extrêmes. Tu poses une question à quelqu'un, il explose de nerfs. On s'est trompé de registre. J'étais venu pour parler. Ouais, c'est pas grave, c'est bon. Remets le couvercle de la cocotte, ça revient. Je reviens dans 6 ans. Laisse tomber. Faut jamais rentrer dans les extrêmes. Pourquoi? Parce que dans les extrêmes, écoutez bien ce que je vous dis, même quand t'as gagné, t'as perdu. Même quand t'as gagné, t'as perdu. Parce que si t'as gagné, t'es un bourreau. Si t'as perdu, t'es une victime. Donc t'es naze des deux côtés. Vous comprenez ou non? Parce que pourquoi elle exagère l'autre? Pourquoi elle exagère? Il exagère parce qu'il veut que même si tu gagnes, t'as tort. Parce que tu t'es attaqué une victime. Tu dis, non, écoute, je vois que t'es pas dans ton état normal. Quand tu seras bien, tu seras calmé, tu seras détendu, tu seras moins déprimé, tu seras pas explosé. On s'assoit, on va parler, c'est pas grave. Mais je veux pas être là, parce que si je suis là, tu vas dire, ou je suis partenaire, ou je suis complice de ta destruction. Je suis pas là. Je ne suis pas sur la photo. Vous comprenez ou non? Oui, c'est marqué ça? Je sais plus où c'est marqué. Oui? Ça vient du fait que la personne, elle s'est rétractée. De quoi donc? De la coupure. Regardez ce qui est marqué. Dans la parasha Tamelech, il y a une parasha dans la Torah qui traite comment est-ce qu'on doit se conduire avec le roi. Comment est-ce qu'on doit agir avec le roi. C'est marqué comme ça. Vekatavlo et Mishneh à Torah Azot. Et vous lui écrirez donc cette Torah. On doit écrire un Sefer Torah au roi. Il y a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah pour le roi. Ve'aita imo, elle sera avec lui, donc il devra porter ce Sefer Torah. Ve'karabo kol yemei chayav, et il devra lire dedans tous les jours de sa vie. Les ma'an ilmad leira et Hashem Elokav, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu. Là, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu. Si on avait dit afin qu'il apprenne, on aurait dit les ma'an ilmad, afin qu'il étudie. Ou on aurait dit afin qu'il craigne, c'est facile. Mais on dit afin qu'il apprenne à craindre. Bizarre. Avant de répondre à cette question, il faut d'abord répondre à une première question. C'est marqué Vaïta Imo, il sera avec lui. Donc on écrit un Sefer Torah, et le roi doit toujours avoir le Sefer Torah avec lui. Toujours. Hein? Toujours. Il doit toujours avoir le Sefer Torah, hein? Il doit toujours l'avoir. Tu dis, il peut pas toujours l'avoir avec lui. C'est une bonne question. Bravo. Donc, la Gemara, elle dit, elle pose la question, elle pose votre question, la Gemara. Bravo. Elle dit, dans la Gemara dans Sanhedrin, Daf Kaf Alef Amud Bet, elle dit, Sal Kadarta, Afilou, Bebetakise, ou Betakne, Mechatz. Tu crois qu'il va garder le Sefer Torah, même dans les toilettes, et même au bain? Abotaï, c'est quoi cette question? Mais comment la Gemara, elle pouvait croire que le roi d'Israël, il va rentrer avec un Sefer Torah dans les toilettes? Tu dis, c'est, même un type qui mange pas cachère, il fait pas Kippour. Tu lui dis, tu peux me garder le Sefer Torah 2 minutes? Il dit, mais où je le mets? Il dit, mets-le dans les toilettes. Hein? C'est ça les religieux, c'est ça les religieux. Mais Rabotai, comment la Gemara, elle peut poser une question comme ça? Tu vas emmener, on aurait cru, puisque c'est marqué Vaïtaïmo, il sera avec lui. Donc on aurait cru que le Sefer Torah, oui, il va l'emmener même dans les toilettes. Même à la piscine. Il dit, qu'est-ce qu'il y a à côté de toi, à côté de ta serviette? J'ai un Sefer Torah, je le garde toujours avec moi. Moi, ma mère, elle m'a dit, mon fils, embrasse le Sefer Torah, garde-le avec toi. Chez Kapara, il est avec toi, Sefer. J'ai pas peur, je sais que... La Gemara, elle dit, Kamashmalan, Aitaimo, Bimkom, Sheyacholil Mod. Quand est-ce qu'il doit être avec lui? Seulement quand il peut l'étudier. Et comme il n'a pas le droit d'étudier la Torah dans les toilettes et dans le bain, donc c'est pour ça qu'il ne doit pas rentrer le Sefer Torah. Donc la Gemara, elle pensait au départ, ouais, on aurait pu dire oui, il peut le rentrer avec lui. Ouais ou non? Maintenant, je vais pas vous mentir. D'après la halakha, nos toilettes d'aujourd'hui, c'est pas des vraies toilettes. Pourquoi? Parce que c'est des toilettes où les déchets sont évacués complètement. C'est à la limite, c'est vachement propre, nos toilettes. Bon, j'ai pas dit qu'il faut manger dedans, mais c'est très propre, d'accord? C'est très propre. Avant, c'était un trou avec une planche. Donc tu savais ce que tu avais mis, c'était un placement sûr, tu reviens le lendemain, il est là. Donc là, c'est normal que on peut pas rentrer parce qu'il y a des saletés. Mais là, quelle saleté il y a? Une fois, un ravi m'avait dit, il m'a dit peut-être qu'on pourrait même mettre les téfilines dans nos toilettes à nous. Mais seulement, comme c'est un endroit où on se dénude, alors c'est pas très bien. Mais au fond, au niveau dégoûtant, qu'est-ce qu'il y a de dégoûtant? C'est tellement dégoûtant, c'est propre. Prends les trois quarts des cuisines des restaurants chinois, tu vas au fond, c'est plus dégoûtant, hein, parce que là-bas, il reste les saletés. Demande aux cafards, ils le savent. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que quelqu'un, il comprend que, en vérité, on parle des toilettes sales. Et quand même, la Gemara, elle a pensé qu'on aurait pu rentrer le Sefer Torah. Rabotai, ça veut dire quoi? On peut pas rentrer un Sefer Torah dans les toilettes. Je vais vous dire une halakha. C'est qu'on n'a pas le droit de parler dans les toilettes. Vous savez, on n'a pas le droit de parler. Pourquoi? Parce que Dieu, il a créé le monde avec la parole. Maintenant, on n'a même pas le droit de penser à des paroles de Torah. Quelqu'un, il dit, tiens, je vais réviser le cours de Torah aux toilettes. Non, assour. Pourquoi? C'est un endroit qui est pas pur. On peut pas. Maintenant, il y a une autre halakha. Écoutez bien celle-là. Si quelqu'un, il a un grand yetzerara aux toilettes, très grave, et il a envie de faire une avéra très grave, je peux pas vous dire laquelle, mais vous imaginez, d'accord? Eh ben, il a le droit... Quoi, arrêtez? Il a le droit de dire des psukim de la Torah pour s'arrêter. Si c'est ça qui va l'arrêter, s'il doit créer Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, pour arrêter la vera, il a le droit. Alors? Tu dis, mais c'est des toilettes ici, c'est un sourd. Toi, t'es un religieux, toi. Tu dis des mots de la Torah. Si il sait qu'il va faire une avera très grave, et qu'il y a que ça qui peut l'arrêter, il a le droit de dire tous les psukim de la Torah qu'il veut. Alors? Rabotai, le roi, c'est comme ta conscience et toi. Ta conscience, elle te tient à toi. Maintenant, imagine, tout le peuple d'Israël, c'est un corps. Et la tête du peuple d'Israël, c'est le roi. Maintenant, si la tête, elle n'a pas le droit de perdre conscience pendant une seconde, parce que quand est-ce qu'elle vient de les Averot? Pendant la perte de conscience. Maintenant, le roi, lui, il n'a pas le droit de perdre la conscience, parce que lui, c'est la conscience du peuple. Moi, toujours, je vais poser la question. Je me dis, c'est bizarre. Vous savez, aux États-Unis, il y a le Pentagone, ouais. En dessous du Pentagone, il y a le bureau ovale là-bas, le, je sais pas pourquoi il est ovale, bon, il est ovale. Peut-être pas pour empêcher de tourner en rond, je sais pas. Alors, ils ont fait un bureau ovale. En dessous du bureau ovale, il y a un blocos. Et dans ce blocos, il y a une boîte. Et dans cette boîte, il y a un bouton rouge. C'est quoi là-bas? C'est l'arme nucléaire. Maintenant, le président des États-Unis, il a le pouvoir sur l'arme nucléaire. D'accord? Tu dis, il a le pouvoir sur l'arme. Ouais. Mais Rabotai, à un moment, il y a eu un président des États-Unis, c'était un ancien acteur de cinéma. D'accord. Il y en a un, c'était un marchand de cacahuètes. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Et l'autre, c'était un ancien acteur, un cowboy. What cowboy? Dans les films cowboy. Ouais. Alors, tu t'es dit, mais t'as pas peur que ce mec-là, il va avoir un petit peu, avec tout ce qu'il a fait comme cascade et les baffes qu'il a pris dans les saloons et tout, t'as pas peur qu'un jour, dans 20 ans, il va avoir une petite fissure dans les neurones. Il va se dire, comment? Monica, elle veut pas m'épouser? Ma parole, je vais lui éclater. Elle est toute la terre! Et il descend sous ça, il appuie sur le bouton. T'as pas peur? Vous comprenez ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comment on peut donner une telle responsabilité à des gens peut-être qui sont pas fiables? Celui-là, il est marié, il est sérieux et tout. Il a craqué avec la secrétaire. Tiens, président des États-Unis. Pourquoi le roi d'Angleterre, il a pas craqué avec toutes les secrétaires? Tu dis, ouais, mais bon, lui, c'est normal, c'est un cyclique, mais l'autre, c'est là. Ça veut dire quoi, Raboteil? Ça veut dire comment on peut donner une telle responsabilité à des gens irresponsables? Ils sont irresponsables. Or, si déjà toi, avec un manque de conscience, un petit manque de conscience comme ça, hein, t'es marié depuis 15 ans, un soir comme ça, tu t'es gouré d'étage. Au lieu de t'arrêter au quatrième, tu t'arrêtes au deuxième. T'es rentré, elle a oublié de s'habiller. Excusez-moi, je suis déshabillé. Ah ouais, je vois bien, bah justement, pourquoi vous êtes trop habillé? Ah oui, d'accord, alors, on va se mettre en conformité. 10 minutes, hein, vraiment, c'est une professionnelle. 10 minutes, hein, montre en main, 10 minutes. Allez, vite, 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 il y a l'autre qui arrive. Ouais, hop, elle est remontée 2 étages. Il arrive chez lui, un peu décoiffé comme ça. Alors, sa femme lui dit, c'est marrant, t'es différent. Ah non, 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 non. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Je sais pas, il y a plein de taches de rouge à lèvres comme ça. C'est la première fois que tu rentres comme ça à la maison. Alors nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bon, mais... Faut pas, écoutez, d'abord, faut être ouvert. La religion, puis un accident, ça peut arriver, hein. Il y en a qui glissent, il y en a qui prennent une voiture, bah lui, il a pris la voisine, voilà, bah. Alors, il dit, mais c'est pas un accident. Tu t'es fait agresser. T'as subi une agression. J'étais agressé par ma voisine. Alors, qu'est-ce que tu dis? Il dit, bah, je dis, franchement, j'ai perdu conscience. Pendant 5 minutes, je sais pas, j'étais plus moi-même. Ah bon? Et t'étais qui? Non, je voudrais savoir qui j'ai épousé, là, exactement. Sous la roupa, t'étais qui, là? Ah non, je suis le bon, mais là, j'étais quelqu'un d'autre. Oui, oui. Mais tu lui as dit à elle aussi que t'étais quelqu'un d'autre. Alors, vous êtes qui, exactement, monsieur? Tu perds conscience. Si une perte de conscience comme ça, elle peut se faire tromper d'étage. Pourtant, il sait qu'il est marié. Hein. Une perte de conscience. Et ça change toute sa vie, hein. Elle veut plus le voir. C'est pas ses enfants, ils le trouvent qui c'est un pauvre type fini. Sa communauté, elle le rejette. Comment si déjà une erreur d'étage de 5 minutes, elle peut faire ça? Alors imagine-toi si maintenant le roi il craque. Il a pas le droit de craquer, le roi. Regardez Shaoul, il a craqué, il a exterminé une ville entière de Kohanim, de nerfs comme ça, de nerfs. Est-ce qu'il a craqué? Il a craqué de jalousie, il a craqué d'orgueil contre David Amé. Il s'est énervé, allez. Il a fait exterminer la ville. Une ville entière. Que des Kohanim. Je sais pas si la sainteté qu'il y avait dans cette ville. Pourquoi? Il a craqué. Quand quelqu'un, il est tellement haut niveau, il n'a pas le droit de craquer. Attendez, comment il va faire pour pas craquer? Il va garder le Sefer Torah tout le temps avec lui. Ah, tu dis, alors quoi, c'est ça porte bonheur. Quand les gens, ils mettent la mezouza dans la voiture. Il dit, oh, Oh Hashem, Oh Hashem. Quand il ouvre la porte de la voiture, il embrasse la mezouza. Une fois, il m'a demandé, il m'a dit, vous n'avez pas une petite mezouza comme ça? Je dis, vrai, hein? Histoire vraie. Il m'a dit, vous n'avez pas une petite comme ça? Je dis, pourquoi faire? Mais c'est pour mon chien. Il m'a dit, alors moi, je suis rentré dans le jeu. J'ai dit, vous savez, les fous, faut pas les contredire. Donc, je lui ai dit, mais pourquoi vous voulez une petite, prenez une grande, c'est un grand chien. C'est un ami fidèle. Prenez-lui le bel mezouza, la méadrine, wahtaboza, comme ça. Il m'a dit non, parce que j'ai déjà acheté la boîte, une petite boîtier comme ça, qui se visse, avec une petite chaîne. Je voudrais lui mettre une petite mezouza. Que Dieu le garde. Vraiment. Ah, on voit des trucs, hein. Les gens, ils vont à la télé, je vois pas pourquoi tu regardes la télé, regarde dans la rue, c'est beaucoup plus rigolo. C'est pareil. Tu veux dire le roi maintenant, il va garder avec lui le Sefer Torah, ça va lui porter bonheur. Non, 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 c'est marqué les ma'an ilmad le ira et Hashem elokav, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu. On l'a demandé la question tout à l'heure. On l'a dit, fallait dire ou afin de craindre ou afin d'étudier. Pourquoi c'est marqué afin qu'il étudie, qu'il apprenne à craindre? Le limoud, Rabotai, le limoud, il y a une logique, il y a le langage du limoud, c'est l'étude normalement. Mais c'est aussi l'apprentissage. Par exemple, quand vous apprenez à dessiner, alors vous faites des courbes, des milliers de courbes. Après vous faites des perspectives. Après jusqu'à ce que votre main, elle est éduquée. Votre main, elle travaille toute seule. Elle est éduquée. C'est pareil, une personne, elle étudie. C'est quoi le limoud? Alors le limoud, il y a deux côtés. Il y a un côté limoud, connaissance. Je me casse la tête, je réfléchis, je deviens intelligent, je développe, j'argumente, je démontre. Ça, c'est le côté intellectuel. Mais il y a aussi un limoud, et apprentissage. Tu te travailles. Maintenant, la Torah, elle a dit, le man, il man, l'ira. Il va étudier, ça veut dire quoi? Il va faire un apprentissage de la crainte de Dieu. Pourquoi? Rabotai. Je vais vous dire un truc débile. Il n'y a pas plus occupé qu'une personne occupée. C'est vrai. Une personne qui est occupée, en général, elle est occupée. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas occupé, il est dangereux. Parce que s'il n'est pas occupé, il peut être occupé par autre chose. Maintenant, imagine, toi, tu es en plein business. Le Yetzer Hara, il vient et te dit, écoute, il y a une fille de folie, là. Tu dis, mais là, je suis en train de signer un contrat à 13 milliards. 13 milliards lourds, commission 250 000 dollars, cash tout de suite dans la valise. Laisse-moi finir. Je te dis qu'elle est là. C'est l'affaire de ta vie. Qu'est-ce que tu réponds? Je suis occupé. La preuve, quand je viens pour une mitzvah, qu'est-ce que tu réponds? Excuse-moi, je suis occupé. Alors quand tu viens pour une avera, pourquoi t'es pas occupé? C'est pourquoi? Parce que là, t'es pas occupé, t'es vide. Il y a de la place. Il n'y a personne qui est plus occupé qu'une personne occupée. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Quand t'es occupé à construire, tu peux pas détruire. T'es occupé à faire attention. T'arrives pas à l'accident. Pourquoi t'as eu l'accident? Ben, j'ai pas fait attention. Comment t'as fait attention? Mais t'es en voiture, tu vas faire attention. Ah, ben, c'est vrai. T'as remarqué? Les gens qui font attention. Oui. Eh ben, ils sont pas pris d'inattention. Parce qu'ils sont occupés à faire attention. Les gens qui sont conscients. Ils sont pas inconscients. Oh, comment t'as fait pour être inconscient? Eh ben, j'ai oublié d'être conscient. Le roi, il n'a pas le droit d'être inconscient, même pas une seconde. Alors comment il va faire pour assurer qu'il est tout le temps en train d'être conscient? Il va se concentrer. Non. Il va s'occuper à acquérir la crainte. Donc comme il est perpétuellement en dynamique d'apprentissage, il peut pas s'oublier celui-là. Vous me suivez ou non? Parce qu'il est dans une dynamique d'apprentissage. Maintenant, la Torah, elle dit, un homme, toute sa vie, il est dans une dynamique d'apprentissage. Regardez bien, les gens qui craquent, c'est toujours les gens qui ont arrêté l'apprentissage. C'est les gens qui disent, ça va, c'est bien, comme je suis, c'est pas mal déjà. Ils s'assoient, ils arrêtent la machine. Attention, si tu lâches le volant, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le volant. Arrête. Et je vous ai dit le principe. Si tu es allongé à l'arrière de la voiture et que la voiture avance, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui la conduit. Si tu es allongé à l'arrière de ta vie et que ta vie, elle avance, tu dis des choses que tu ne veux pas dire. Tu fais des choses que tu ne veux pas faire. Tu penses des choses que tu ne veux pas penser. Et quand même, tu les penses. Et quand même, tu les dis. Et quand même, tu les fais. Alors, qui c'est qui les a fait? Et tu dis, c'était plus fort que moi. Alors, c'est quelqu'un d'autre. Alors, je te dis un conseil. Tu veux un conseil? Franchement, lâche pas le volant. Parce que quand tu lâches le volant, t'as décidé qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le volant. Et l'autre, tu le connais. Il y a un test facile. Vous allez pour faire Netilat Yadayim. Vous savez que quand on se lave les mains, par exemple pour manger, on doit faire 3 fois de ce côté, on met 3 fois de l'eau, et là 3 fois de l'eau. Mais quand le matin, ou quand on sort des toilettes, on doit faire une fois. Toujours 3 fois, mais 1 fois intermittent, et 1 fois 3, d'accord? C'est facile. Maintenant, je vous le signe. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. Si vous faites attention, vous allez faire, pour manger, 3. Si vous faites pas attention, vous allez faire 1. Inconsciemment. Tu mets les téphilines. Si tu te concentres pas, tu me dis, les taratef bétitit. Si tu te concentres pas, c'est Yitzhak qui va se concentrer à ta place. T'as pas compris encore? C'est pareil. Si tu prends pas ta vie en main, l'Yetzar, il va te la prendre en main. Tu dis, mais comment c'est arrivé une chose pareille? Parce que t'étais pas là. Parce que si t'étais là, ça serait pas arrivé. Exactement ce qui est marqué. Aussi. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est que dans ta vie, il y a une coupure. S'il y a une coupure dans la conscience, ou s'il y a une coupure dans l'acte, ou s'il y a une coupure dans la pensée, automatiquement, il y a un espace vide. Et dans cet espace vide, il rentre le Yetzara, il fait sa vie. Où c'est marqué ça? Efsed, il dit le Messie à Techarim, Efsed a Gadol le Kinyan Irat Shamaim ou a Esiah Adat. Le plus grand, c'est-à-dire le plus grand vecteur destructeur pour l'acquisition de la crainte de Dieu, c'est Esiah Adat. C'est quoi? Quelqu'un, il pense à autre chose. Il est, le da'at, c'est l'esprit. Et si y'a da'at, ça veut dire qu'il y a une coupure dans l'esprit. Ah, ça m'a échappé. Ah, comment ça t'échappe? Tu dors? Non, ça m'a échappé. Après, il dit, le geste a dépassé ma pensée. Ah, comment il a fait ton corps? Vous savez, on a un système nerveux. Le système nerveux, il maîtrise le corps. Si tu maîtrises pas le corps, ça s'appelle Parkinson. C'est une maladie, bon, il y a, des fois ça se soigne. Quand tu maîtrises pas, c'est Parkinson. Alors comment quelqu'un dit, je sais pas, bah tu m'as énervé, je t'ai mis une baffe. Tu dis, mais t'es parkinsonien? Il dit, non, je suis nerveux. Ça veut dire que les nerfs, ils ont remplacé le cerveau. Je sais pas si vous voyez le problème. Comme un lézard, vous lui coupez la queue. Vous avez déjà essayé?
Oui.
Ah, c'est vrai, ouais. Eh ben, la queue, elle continue à bouger. Alors, il dit, mais comment elle peut bouger puisque elle est détachée du corps? Alors, il dit, c'est les nerfs. C'est les nerfs. Mais il y a des gens, c'est comme des lézards. Oui, on leur a coupé la queue, ils sont nerveux. Je dis, mais calme-toi. Non, mais voilà, je peux pas, je tape dedans, je. Oh là là. J'ai fauché les mains. T'as pas de cerveau, t'as rien? Non, voilà. Je suis comme ça, faut me prendre comme je suis. Mais quel âge t'as? C'est pas une question. Mais quel âge? Je te parle français. Tu baisses d'un ton, on parle tous les deux. Qu'est-ce qui va pas? On dirait que quand tu enlevas les nerfs, il n'y a plus rien. Il n'y avait que des nerfs. C'était un sac de nerfs. Exactement pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a une coupure. Rabotai, c'est quoi l'Ayirat Shamaim? Je vous ai déjà dit des fois. L'Ayirat Shamaim, c'est la conscience de la conscience. Maintenant, quand quelqu'un, il déconnecte la conscience de la conscience, il n'y a plus de conscience. Quand il n'y a plus de conscience, il y a l'inconscience. Maintenant, c'est-à-dire, quelqu'un va dire, mais moi, j'ai pas étudié Freud pour savoir comment est-ce qu'on doit maîtriser l'inconscient et le subconscient et le surmoi et le... Bartata, on t'a pas dit d'aller visiter l'intérieur de l'être, on t'a dit, écoute-moi bien. Quand la porte, elle est fermée, elle est pas ouverte. Quand ta vie, tu la maîtrises, tu la tiens. Quand ta bouche, tu fais attention, elle va pas sortir n'importe quoi. C'est tout. On t'a pas dit que tu rentres pas à l'intérieur. Si. Oh, je vais montrer, je vais visiter les profondeurs de l'être. Je vais faire une, comment ils appellent ça? Une drogothérapie. D'accord? Tu te shootes à mort et tu commences à voir des mondes. Il t'a pas besoin. Qu'est-ce que t'as besoin de pénétrer tout ça? Tu connais où elle est la porte d'entrée? C'est quoi le plus important dans une poubelle, Rabotaille? C'est quoi le plus important? C'est le couvercle. C'est ça le plus important. C'est comme les toilettes, c'est quoi le plus important? C'est la porte. Tu manques, il y a une porte, ferme la porte. Tu dis, mais tu sais qu'ici, il y a des... Ici, c'est le hangar à poubelle. Mais bon, j'ai mis une porte. Maintenant, tu dis, mais moi, je voudrais bien savoir d'où elle sort l'odeur, et comment elle se décompose le déchet, et pourquoi ça sent mauvais. Mais non, t'as juste besoin de savoir où est la porte. Mais ferme la porte. Vous comprenez? C'est pareil. Écoute-moi, je me contrôle pas. Si je dis des insanités, j'arrive pas à me contrôler. Mais ferme-la! Tu sais où elle est la porte? Double protection. Déjà, il y a un bouchon là. Grille de sécurité. Plus deuxième grille de sécurité. Mais ferme-la! Moi, je peux pas, moi. Les gens étudient. Moi, quand je pensais. Moi, il faut que je le dise, moi. T'as une fuite ou quoi? Mais un bouchon! Détends-toi. Et là, t'arrives pas à te retenir. Va aux toilettes, il y a un endroit pour se vider. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Moi, je l'ai ici. Moi, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Moi aussi, mais je vais aux toilettes. Il faut que ça sorte. Alors, il faut salir tout le monde parce que t'as un problème. Non. Ou tu le gères, ou tu le digères. C'est comme tu veux. Et pourquoi tu vas le cracher? Ah, tu dis, ben j'arrive pas. Alors, il faut que tu apprennes à maîtriser. C'est ça, Essehadat. Essehadat, tu as oublié de maîtriser. Regardez ce qui est marqué dans le message des Charim. Je vous mens pas. Il y a des gens qui vont dire, ouais, il invente et tout. Non. Malheureusement, c'est marqué. Regardez. Shekemo Sherov a Itbonen ou Aderech Liknot Aira. Donc, c'est dans le Bessat Echarim. Bederech Kinyan Aira. Ça veut dire, c'est le chemin d'acquisition de la crainte. Page Kouf Kaf E. 125. Pour ceux qui veulent aller vérifier ce soir. D'accord? Dans la version avec les points ponctués. Regardez. De la même manière que la grande réflexion, c'est ça le chemin de l'acquisition de la crainte perpétuelle. Ken Aeser Hadaat ou Bitul Ayoun. Alors, de la même manière, la coupure dans la réflexion, ou Bitul Ayoun, ça veut dire l'annulation de la réflexion, de la concentration, ou Amafsid Agadol Shela. C'est ça qui fait la perte de tous les acquis de la crainte. Iye Michamat Tirdout Oberatson, que ce soit à cause des soucis des problèmes, ou à cause de la volonté. C'est-à-dire que volontairement, quelqu'un, il se lâche, il dit, bah voilà, j'ai pas envie, tu vois, j'ai plus envie d'être un adulte, et ben j'ai pas envie, voilà. Oh, t'es un gamin. C'est pas un adulte. T'es un gamin. Ah, surtout, ne le traite pas de gamin, attention. Kol esyach da'at bit ul'ira atmidit. Toute la coupure, c'est ça qui est l'annulation de la crainte perpétuelle. Regardez comment il appelle ça. Ira atmidit. Ce qu'on a dit tout à l'heure. La logique, c'est quoi? C'est la perpétuité. Regardez bien autour de vous. Tous les gens que vous respectez, c'est des gens stables. Et tous les gens que vous respectez pas, c'est des gens instables. Aujourd'hui, il dit ça, demain, il dit ça. Tu dis, oh, il est pas fiable. Là, tu dis, ouais, cette semaine, j'ai changé 4 fois de métier. Pas d'emploi, hein, de métier. Il est pas très stable, lui. Il dit, il s'engage, après, il se désengage. Il est pas stable. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas la perpétuité. Il y a des gens, tu les vois aujourd'hui, tu viens dans 10 ans, ils sont là. C'est une barre de titane. C'est un rail. Il est là. Ah, tu viens, il est là. Tu dis, où il est le train? Il est là. À Botaille, le train, il est là. Le chemin dans la forêt, il peut changer. Le chemin dans la mer, il n'existe pas. Mais le chemin de fer, il est là. Il y a des gens qui sont comme ça. On appelle ça des gens stables. Comment on appelle ça, nous? On appelle ça irat midit, la crainte perpétuelle. C'est que la personne, elle a une conscience qui coupe pas. Pourquoi? Parce que la crainte, on l'a dit, c'est comme un élastique. Si tu coupes l'élastique, la maturité, c'est comme un élastique. Tu coupes l'élastique, l'intelligence, c'est comme un élastique. Chut. Comment quelqu'un peut être bête? Il peut devenir bête. On peut devenir bête. Ouais, on peut devenir bête. Parce que c'est quoi quelqu'un d'intelligent? C'est quelqu'un qui lutte contre ses intérêts. Mais quelqu'un qui soumet son intelligence à ses intérêts, il peut devenir bête. Pourquoi? Parce que lui, il a une conscience. Maintenant, il fait une gaffe. Maintenant, ou il va réparer la gaffe, ou il va justifier la gaffe. Mais puisque c'est une gaffe, elle n'est pas en accord avec son intelligence. Ah, pour justifier sa gaffe, il va être obligé de tordre l'intelligence. Et comme il va tordre l'intelligence, il va devenir bête. Comprenez ou non? Comme des fois, tu dis, les gens, tu dis, c'est marrant, le mec, il est major HEC, il était chef de sa promotion, en dentaire, il était chef de grosse tête. Tu lui poses une question, mec, il dit, vraiment, je comprends pas. Ça fait 15 ans que t'es marié, tu rentres tous les soirs à 11h du soir, elle est partie avec le voisin, et tu comprends pas. Il dit, je comprends pas. Il dit, alors toi, vraiment? Mais comment ça s'est dit? Je vois pas, je lui ai tout apporté. Oui, mais il manque juste un mari. Il dit, oui, c'est vrai, bon, ça c'est vrai, il manque un mari. Mais pour le reste, elle avait tout ce qu'il lui fallait. Nia. À Botaille, c'est évident. Tu vas dire, franchement, tu crois qu'il comprend pas ou il fait l'imbécile? À Botaille, c'est tellement évident. C'est pas un problème de compréhension. On peut pas marcher avec les yeux fermés. Alors quoi? C'est au contraire, c'est son intelligence qui s'est mise au servir de ses intérêts qui l'a rendu bête. Alors il est devenu bête. Je comprends pas le mec, ça fait la 4e fois, 4 ans de suite, qu'il est cambriolé le jour de Rosh Hashanah. Il réfléchit pas. Il a lu dans son livre en français, aujourd'hui nous faisons les comptes avec Dieu, et le cambrioleur, il a marqué en bas, règlement de compte. Il n'a pas réfléchi. C'est une coïncidence. Rien que le jour de Rosh Hashanah, il t'a volé. Bizarre. Non, il comprend pas. Il veut pas comprendre. C'est ce qui est marqué ici. Où est-ce qu'il est? Il dit où machet tiva kadosh bokhu, c'est ça que kadosh bokhu il a ordonné au roi. Ve'aita imo, elle sera avec lui. Ve'karabo kol yemei chayav, il la lira tous les jours de sa vie. Leman ilmad le'ira et Hashem Elokav, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu. Alamata she'en ha'ira nilmedet ela mina kriya abilti nifseket. Tu vois donc que la crainte de Dieu, elle va s'apprendre de la lecture, de l'étude sans coupure. Il dit pourquoi? Parce que c'est pas marqué le ma'an ira afin qu'il craigne, c'est marqué le ma'ad il mad le ira afin qu'il apprenne à craindre. Donc Rabota, ici, qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué une chose incroyable. C'est marqué qu'il faut pas s'arrêter. Et quand quelqu'un il s'arrête, il sait pas jusqu'où il va reculer. Regardez, je donne cet exemple. Le Rav Raikin Zatzal, qui était le Rav de la Yeshiva d'Exleva. Il est venu vers 30 ans, il a créé la Yeshiva d'Exleva. En 30 ou 40 ans, il a eu des milliers d'élèves. Des milliers d'élèves, Rabotai, ça fait des milliers de familles. Ça fait des centaines de rabbanim. Presque tous les rabbanim qui sont sortis en France sont passés par un fraki. D'accord? Il a eu des centaines d'élèves, il a créé des centaines de familles, il a eu des centaines d'enfants, il y a eu des centaines de teshuvah, des centaines de shabbat, des centaines de kashrut, tout ça de Rav Raikin tout seul. Et Rav Raikin, d'où il vient? Il vient de la yeshiva de Radin. Il a étudié chez le Chafetz Chaim. C'était l'élève, un des élèves du Chafetz Chaim. Mais dans le Chafetz Chaim, il a eu des centaines d'élèves. Et lui, c'est un élève du Chafetz Chaim. Regarde que ce que un élève du Chafetz Chaim, il a fait. Il a créé la yeshiva d'Exleva. Ça va? Alors nous, maintenant, nous, qu'on est des gens intelligents, si on nous avait dit, tu veux créer une yeshiva, où tu vas aller? Toi, tu dis, moi, je vais aller en plein Paris. Je vais aller à Jérusalem, à Belleville. D'accord? Non, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été à Aix-les-Bains. Il n'y a même pas un juif. Il est arrivé, c'était le premier. Et il a dit, on va en haut de la côte là-bas, on va créer la yeshiva. Et vas-y, crée la yeshiva. Et amène des rabbanim, et amène des élèves. Il va chercher des élèves au Maroc. Il va chercher, et première famille, deuxième famille, et crée la synagogue, et crée le migvé, l'épicerie, le... Un bled. Vous avez déjà été avec des mains? Non? Quand vous en pouvez plus, vous faites une cure là-bas. Ouais. Pourquoi elle était là-bas? À Botaï. Dans le néant, il a fait le plein. Maintenant, je vais vous raconter un truc incroyable. Il y a un rav qui enseignait à Nice. Il m'a raconté. Une fois, il y a un monsieur qui est venu le voir. Un vieux, un monsieur, 75 ans, comme ça. Il a dit bonjour et tout ça. Il a dit, voilà, vous voulez faire la prière. Il a dit, excusez-moi, je ne sais pas lire. Il a dit, bon, c'est un monsieur, un vieux monsieur Ashkenaz, d'une famille très assimilée. Bon, il a dit alors. Il a commencé à parler tout ça. À un moment, le Rav, il a dit, voilà, comme a dit le Chafetz Chaim et tout. Alors, il a parlé avec lui. Il a dit, ah, le vieux, il a dit, ah, c'est marrant. Il a dit, vous citez le Chafetz Chaim? Il dit, oui. Il a dit, alors le Rav, il a dit, mais comment vous connaissez le Chafetz Chaim? Alors l'autre, il a dit, le petit vieux, il a dit, mais moi, j'étais à la yeshiva du Chafetz Chaim. Ah, ah, ah. Il sait même pas lire. Je sais pas si vous comprenez. Peut-être il est allé à la yeshiva du Chafetz Chaim quand il avait 13, 14, 15 ans. Après, il est venu en France. Il a commencé à travailler. À Nice, il s'est émancipé, il a épousé une Bretonne, il a eu des enfants, il a ouvert son magasin, il a appelé Hilul Shabbat, il vendait que du taref, d'accord. Et au bout de 40 ans, il a tout oublié. Tu dis, mais comment? Comment? L'autre, il a dit, moi, le Chafetz Chaim, je l'ai vu une fois, ma vie a changé. Il dit, moi, je l'ai vu tous les jours pendant 5 ans, et il n'y a rien eu. Tu dis, regarde, un élève du Chafetz Chaim, il a fait la yeshiva d'Aix-les-Bains. Et un autre élève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, à pied, il a fait la promenade des Anglais. Le vide et le plein. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que, un, il a pris un capital chez le Chafetz Chaim. Et il a travaillé ce capital, il a transmis. Il a fait la yeshiva. L'autre, il a pris un capital. Il a oublié sur le quai de la gare. Il est ravi à Nice. Il a pas pu être sauvé, même pas par un Nice. Foutu. Il est resté là-bas. Sur la côte. Pourquoi? Parce qu'il a pas travaillé son capital. Coupure. Élastique. Rétraction. Jusqu'où tu peux reculer? Comme des fois les gens me disent, vous vous rendez compte comment quelqu'un de la communauté, il a pu faire une chose pareille? Je dis, écoutez. Quand quelqu'un il monte haut. Mais quand quelqu'un il tombe à Botaï, il tombe de haut. Puisqu'il est haut. C'est pareil. Celui-là qui a un grand Yetzeratov, il a un grand Yetzerara. Je dis, mais comment il a pu faire une chose pareille? Je te dis, l'élastique, quand il recule, tu sais pas jusqu'où il peut reculer.
Je dis, mais c'est pas possible, mais ce type-là, c'était cette femme, quand tout le monde l'a cité là-bas. Sa mère, c'était la tzadékette du bled. Tout le monde disait, Lala. Tout le monde l'appelait. Et sa fille?
Je peux pas te dire le métier qu'elle fait, mais. Bon, tu m'as compris. Alors, un beau taille, l'élastique, quand tu le coupes, il repart en arrière. Jusqu'où il va aller? C'est pour ça que la Torah l'a dit, pas de coupure. Attention. Toujours les gens, ils disent, ah, mais de toute façon, je ferai teshuva. Mais la teshuva, c'est un miracle. Comment tu peux rattraper un élastique? Imagine, t'as un câble. Un câble comme ça, élastique. Il est tiré depuis Marseille, on est à Paris. Il y a un brel, il le coupe. L'élastique, il s'en va. Tu dis, va chercher l'élastique. Il est tendu depuis Marseille. Vas-y, cours. Comment je vais faire? Eh ben, cours. C'est exactement pareil. Toi, t'étais un type moyen, sérieux. Ils appelaient ça traditionnaliste plus. D'accord. Ça veut dire que t'as le canal, quoi. Ouais. Il dit, donc. Et d'un seul coup, t'as craqué. Tu dis, bah voilà, j'ai craqué. Eh ben, c'est pas grave. Je vais faire tes chouvas. Oui. D'accord. Ça veut dire quoi? T'as lâché le câble. Reprends le câble. Tu dis, où est le câble? Le câble, il est parti. Avant, t'avais des bonnes pensées, maintenant t'as des mauvaises pensées. Avant, t'as des bonnes habitudes, maintenant t'as des mauvaises. Ça fait 6 mois que je vais plus à la synagogue. Lève-toi. Ouais, j'ai du mal, c'est pas évident. Avant, je faisais attention à mes yeux, maintenant je fais moins attention. Avant, j'étais honnête. Avant, je mentais pas. Maintenant, je mens. J'ai pris l'habitude de mentir. Avant, je parlais, je draguais pas. Je te promets, je parlais à quelqu'un. Bonjour madame, bonjour madame. Maintenant, il faut que je la regarde, tout ça. Pourquoi je sais pas ça. C'est plus fort que moi. J'arrive pas. Il faut que je me sente séducteur. Faut que je séduise. Oh, tu vas te soigner un peu. Regarde comment t'es devenu. Tu sais pourquoi? Parce que l'élastique, il a reculé. Ah ben, jamais, j'aurais dit, c'est une femme mariée, jamais, tu dis, bah, tu sais, écoute, faut être cool et tout, mon copain Christian m'a bien expliqué, faut être ouvert, pourquoi pas, et tout. Alors, elle te plaît, bah, peut-être c'est la femme de ta vie, alors, bah, écoute, fais ta vie, hein. Mais elle est mariée, ouais, mais je t'en prie, écoute, faut être ouvert, Comment? Il y a 2 mois, jamais t'aurais pu imaginer. Et maintenant, t'es en train de le faire! Rabota, il est élastique. Il recule très vite et très loin. Donc, quand quelqu'un, il vient, on dit, il y a la teshuva. Moi, je trouve ça, c'est un miracle. Ce qu'il disait, Rahamim. Mais la teshuva, c'est un miracle. Comment on fait pour attraper l'élastique? Imagine-toi, tu marches dans la rue, tu vois par terre ton élastique. Tu vois ton élastique. Attrape-le, il va se barrer. Tu le vois, tu l'attrapes pas. Tu vois, Hachem, il te tend la main, tu tends pas la main, tu dis, plus tard, s'il vous plaît, repassez. Dieu, il va repasser, c'est toi, il va te repasser, ouais. Je suis occupé, là, vous voyez pas que je suis occupé, non? Tu vois que t'as une vibration, t'es dans un cours, tu dis, ça, c'est pour moi, ça. Tu en parles avec un rave, ça te remet en cause. Tu sens, tu vois au cotel, t'as envie de pleurer. Vas-y, profite, c'est Dieu qui t'a tendu la main. Dans toute ta pourriture, au fond de ta poubelle, il était te chercher, il t'a dit, allez, tiens, je tiens. Tiens ton élastique, attrape. Toi tu dis, je suis pas pressé. Mais t'es fou, qui t'a dit que t'aurais une deuxième occasion? Mais ils s'en foutent les gens. Je ferai tes cheveux plus tard. D'abord je me marie, je fais ma situation, je fais mes 4 enfants. Hein, j'achète la maison, je joins les pains. Et après, vers la cinquantaine, comme ça, j'achète un Tehillim ponctué. En phonétique. Et je commence doucement, doucement. Comme ça quand je vais arriver... vers les 60, je commence un petit peu à être chômer Shabbat. Blinéder. T'as pas compris? Toi, t'as besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi. Hein. Comprenez? Là, tu dis, je vais lui faire une tova. Tiens, je vais faire des teïms. Je vais lui faire une tova. Mais Dieu, il a des tzadikim toute la journée qui sont en train de travailler pour lui. Qu'est-ce que tu veux de... C'est toi qui a besoin rien que de toi. Et malgré qu'il a pas besoin de toi. Ouais. Et malgré que t'as lâché l'élastique. Et malgré que l'élastique, il s'est barré. Et tu sais qu'il s'est barré. T'as bien vu dans ta vie qu'il s'est barré l'élastique. Tu vois bien que, d'après ce qu'on te propose. Quoi, les Averot qu'on te propose. Regarde dans tel milieu. T'aurais honte de dire à ta mère ce que tu fais le soir. T'aurais honte. T'as pas honte, t'as l'arche moi. Tu dis à ta mère, ah, non, je suis bien, maman, tu sais. T'es toujours avec Myriam. Ouais. Je suis toujours avec Myriam. Bon, boulard, tais-toi. Ouais, maman, n'aie pas peur. Continue à allumer les veilleuses pour moi, hein. Parce que je suis sur la bonne voie. Chut. L'élastique, il est parti. Maintenant, Dieu, il vient. Hein. Il te dit, tu veux ton élastique, le voilà. Tu veux, tu redémarres. Tu reviens avec moi. On recolle les morceaux. C'est un miracle. Il n'est pas fou, le mec qui rate une affaire pareille. Je viens chez toi, j'ai une mallette. Je te dis, écoute, il y a 20 000 billets de 100 francs dans cette mallette. Et alors, qu'est-ce que tu veux me faire? Je te les vends à 50 francs pièce. C'est vrai. Je dis, il est fou celui-là. Il y a deux gens. Il y a des gens, ils disent, banco. Il y a des gens, ils disent, eh ben, heck. C'est la meilleure affaire du monde, Rabotaille. La meilleure affaire du monde. Des billets de 100 francs, 50 francs, tu ne trouveras jamais mieux. C'est impossible. Tu rates l'affaire. C'est pareil. Dieu t'envoie une affaire. Il t'envoie une affaire. Il t'envoie une fille sérieuse. Elle est sympathique. Tu dis oui, mais elle n'est pas exacte. Elle est plus là. T'en fais pas. Te prends pas la tête. Elle est déjà mariée. Elle a 4 enfants. Le temps que tu réfléchisses, elle s'est mariée. Tiens, je voulais te dire. Tu te rappelles le chidour? Hec. Non. Mais maintenant, j'ai bien réfléchi. Je sais que c'est elle. Oui, oui. Ben, son mari aussi sait que c'est elle. Alors. Dis pourquoi. C'est un cours qui est censé être court. On saute, hein, n'énervez pas. Bon, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué en fin de compte? On a expliqué que toute la vie, c'est quoi? C'est une dynamique. Et cette dynamique, elle va se construire par des étapes successives. Maintenant, nous, on doit accepter les postulats qui sont établis de base. Les étapes, on est obligé de les passer. Troisièmement, on peut pas sauter les étapes. Quatrièmement, le résultat, il dépend pas entièrement du travail qu'on fait. Cinquièmement, si vous allez dire, bon, c'est aléatoire, j'arrive pas à me déplacer, à vivre comme ça, il faut savoir que c'est comme ça la vie, c'est pas grave. Toute la vie, c'est comme ça, de toute façon. On fait des efforts, mais on maîtrise pas les résultats. Cinquièmement, c'est qu'on va pas se comparer avec le travail des autres. Chacun, il a son couloir, chacun a son résultat. Et sixièmement, et c'est ça le plus important, c'est le fait qu'on maintient la perpétuité à l'intérieur du mouvement. Maintenant, pour maintenir la perpétuité, il y a beaucoup de chemins. On n'est pas obligé que ça soit toujours sur la logique de la conscience et la logique de la maîtrise. Non. Ça peut être la logique aussi de l'amour. Ça peut être la logique aussi de l'investissement. Ça peut être la logique du lien avec HM. Maintenant, aujourd'hui, tu vois Dieu dans ta vie. Demain, tu le vois pas, mais tu as la croyance. Là, aujourd'hui, tu es mal, mais tu le fais parce que tu dois le faire. Là, tu le fais parce que t'es bien dans ta peau. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est la perpétuité. Ce qui compte, c'est le mouvement. Faut perpétuer le mouvement. Comme dans ton couple. Aujourd'hui, t'es bien, aujourd'hui, t'es mal. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois garder le contact. On coupe pas le contact. On va parler. On peut pas parler tout de suite, on va parler tout à l'heure. On se donne rendez-vous, on s'écrit une lettre, on s'envoie une cassette. C'est pas grave. On perd pas le contact, on perd pas le contact. Parce que quand on coupe le contact, rétracte. C'est pas grave. T'as un problème avec ton enfant. Tu dis, écoute, mon fils, t'es en crise, t'es mal en ce moment. Tu pètes les plombs. C'est pas grave. Moi, sache, je reste ta mère. Tu penses que c'est mieux ailleurs, tu sens que tu sois plus heureux, t'as envie de faire ta vie, t'es majeur, t'es vacciné, fais ce que tu veux. Mais sache que moi, je suis là. Quand tu reviens, tu sais que ta mère, elle est là, ton père, il est là, on est là, mon fils. Non, ne te bats pas avec nous, c'est pas avec nous. Bats-toi avec ton Yetzara, bats-toi avec ta conscience, bats-toi avec la route, te bats pas avec nous parce que nous, on se bat pas avec toi. Parce que si tu te bats avec lui, il attend que ça. Parce que s'il se bat, il dit, ah, tu vois. Non. Il y a un gamin ici, c'est toi. Nous, on est des adultes, c'est tout. Le jour où t'as envie de jouer les adultes, tu reviens. Maintenant, peut-être tu vas venir dans un an, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans. Le rendez-vous, on sait pas. Mais, qu'est-ce qu'on fait? On coupe pas. De la même manière, tu coupes pas avec l'autre. De la même manière, tu coupes pas avec toi-même. C'est quoi couper avec soi-même? C'est se désespérer. Quelqu'un veut dire, bah, écoutez, moi, j'en peux plus. Bah, voilà, je vis franchement, j'en peux plus. Moi, je craque. Voilà, je m'écroule. Je meurs. Bah, voilà, je meurs. Voilà. Vous voulez savoir? Voilà, je vais mourir. Voilà. Je dis non. Tu craques pas. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es habitué à boire dans un verre vide. Toi, tu t'es habitué à faire la queue dans une boutique qui était vide. Toi, tu t'es habitué à gratter un mur de granit avec une cuillère en plastique. C'était une erreur. Parce que les forces, elles sont en toi. Les ressources, elles sont en toi. Maintenant, tu vas réorienter. Le même travail que t'as fait avec l'autre, tu vas le faire avec toi. Tu vas apprendre à te développer. Tu vas apprendre à t'épanouir. Tu vas pas couper avec toi-même. Tu te coupes pas de toi-même. L'estime de soi, le moral, la joie de vivre, l'épanouissement, le projet personnel, le moi, tout ça, ça devient, c'est ton travail. C'est ton diamant. Tu as un diamant à tailler. Maintenant, tu peux tailler ton diamant à toi. T'es aussi capable de tailler d'autres diamants. C'est bien, mais c'est optionnel. Mais c'est pas la taille des diamants des autres qui va te faire remplacer ton diamant à toi. Vous comprenez ou non? Donc, il y a pas de coupure avec soi-même. Il y a pas de coupure avec l'autre. Alors, il y a pas de coupure avec HM. Il y a pas de coupure. Parce qu'avec HM aussi, on l'a dit déjà, l'élastique, il se rétracte. Très vite. Comme avec l'autre. Et si quelqu'un va te dire, c'est pas évident, T'as pas vu dans ton couple comment il s'est rétracté l'élastique? T'as pas vu avec ton copain? Je comprends pas, ça fait 10 ans que tu travailles avec lui. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Un jour, comme ça, un jour, pour 60 000 francs, on a fait des milliards! pour 60 000 francs, il a commencé, oui, non, oui, non. Et en plein milieu, il a dit, ouais, mais ma femme, elle m'a dit. Je dis, comment on était à deux, maintenant on est trois? Qu'est-ce qu'elle fait, ta femme? Ouais, mais tu comprends, elle m'a dit, ouais, je me fais avoir, je me fais. Pourquoi t'as perdu de l'argent avec moi? On n'a pas toujours partagé, on n'était pas des frères. 60 000 francs, t'es en train de prendre l'amitié, t'es en train de la brûler pour 60 000 francs. T'as fait une coupure. Rabota, il y a un adultère. Ce qui fait du mal, c'est pas le fait que l'autre, il a été avec quelqu'un d'autre. C'est le fait que la confiance, elle a été brisée. C'est ça qui est dur. C'est que nous, on a fabriqué quelque chose de transparent, qui est extrêmement solide et extrêmement fragile. C'est extrêmement solide si les deux, ils le tiennent des deux côtés. Mais c'est extrêmement fragile s'il y en a un des deux qui lâche. Vous comprenez ça ou non? Pourquoi? À cause de la coupure. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? De la même manière que le roi, les man, il man, l'ira et tachem. De la même manière que quelqu'un, il doit pas dire, eh ben, j'espère que ça va tenir. Si Dieu veut. Ouais, comme les gens. Si Dieu, j'espère que ça va. Arrête d'espérer. Travaille. Tu dis, mais ça sert à rien de travailler parce que c'est pas moi qui détient le résultat. C'est vrai. Mais c'est comme ça. Tu t'investis dans ton couple. Il y a un retour. Tu t'investis dans tes enfants. Il y a un retour. Tu t'investis dans la vie. Il y a un retour. Tu t'investis envers Hachem. Il y a un retour. Ah, tu maîtrises pas le retour. C'est vrai. C'est vrai. Tu maîtrises pas. Et pourquoi t'es déçu justement? Parce que tu croyais que t'allais maîtriser. Pourquoi les gens ils sont déçus? C'est moi, vous savez ce que j'ai donné moi? Et le retour, avec zéro. Je dis, madame, il n'y a jamais zéro. Mais peut-être que vous avez mal interprété le retour. Peut-être que l'autre il a fait des tentatives. Peut-être que vous avez été déçu. Peut-être que vous avez dit, ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors il a dit, ah ben, ah, alors si c'est ça, alors je reste à l'intérieur. Ah, super, tu m'as donné l'occasion d'être une victime, il va rester à l'intérieur. Pourquoi? Parce que toi tu croyais que le fruit, enfin, le résultat, il est le fruit de tes efforts. Non, toi, tu fais un effort et l'autre qui donne un résultat. Toi, tu dis, moi, je veux le résultat et l'effort. Tu maîtrises pas. C'est pas dans tes mains. C'est pas dans tes mains. Je l'ai dit une fois, une professeure, elle est venue, elle m'a dit, je suis très déçu, j'ai beaucoup investi dans cette classe et ils ne m'ont pas rendu le fruit. Je dis, mais madame, vous avez fait une erreur. Vous avez cru que quand vous avez donné quelque chose, alors vous maîtrisez le résultat. Mais l'enfant, tu peux avoir le meilleur professeur du monde, il a envie de glander aujourd'hui. Et c'est une crise, elle lui prend juste 9 mois. Il a envie de jouer avec un stylo. Il a envie de regarder en l'air. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Maintenant, la mesure, c'est est-ce que tu as fait ce que tu avais à faire? Et est-ce que tu as bien fait ce que tu avais à faire? Et est-ce que tu peux améliorer ce que tu avais à faire? Mais le résultat, c'est pas entre tes mains. Vous comprenez ça ou non? C'est pas entre tes mains. Peut-être je vais dire pire encore. Peut-être que tout le travail que tu fais avec les autres, c'est seulement que l'autre, il va être un outil pour ton propre perfectionnement. Donc le résultat, c'est toi de quoi tu te mêles. Maintenant, toi, tu es déçu de l'autre. Mais c'est déçu de l'autre. T'es pas déçu de toi? Vous n'avez pas remarqué que les trois quarts des gens qui voient la négation, c'est des gens qui véhiculent la négation. Mais d'où elle vient la négation, si tu la véhicules? Ben, c'est que tu l'as amenée avec toi. Alors fais le contraire. Toi tu te construis, toi tu te maîtrises. Toi tu dis bon, pendant un moment j'ai cru que la solution c'était l'autre. J'ai cru que la solution c'était ça, je crois que c'était the bonheur. Non. C'est toi qui construis, c'est toi qui développe, c'est toi qui t'épanouis. Tu crées cette dynamique, tu la fais avec toi-même. Si elle peut éclairer quelqu'un d'autre en plus, mazal tov. Si elle peut en éclairer 4, oh, encore heureux. Mais toi, tu fais ton travail. Automatiquement, il va se passer quelque chose, ouais. Mais ça sera orienté par rapport à ce que tu dois devenir. Il dit ça, mais tout ça, toute cette logique-là, c'est une logique extraordinaire. Elle est soumise à une condition. C'est quoi? Qu'il n'y ait pas de coupure. Qu'il n'y ait pas de coupure. Il n'y a pas. Ça maintient. Le fil, il avance. Exactement comme la lésion. Tu dis, oh là là, je crois qu'on va être coupé. Mais dès que tu commences à avoir les coupures, tu sais que c'est fini. Dans 5 minutes, tu vas entendre, tu sais. Parce qu'il y a une coupure. D'accord? De la même manière. De la même manière. Toi, tu dis, sache, garde le contact. Moi, je vais les gens me dire, vous savez, moi, j'en peux plus. Moi, j'arrête tes filines, j'arrête la casse-route. Je dis, écoute, mon frère. Tu fais ce que tu veux. Mets-toi la tête contre un mur. Mais n'arrête pas les téfélines. Parce que ne coupe pas le contact. Coupe pas le contact. C'est toi qui as besoin de lui, c'est pas lui qui a besoin de toi. Coupe pas le contact. Tu dis, oh, de toute façon, à quoi ça me sert d'avoir auto-assistance, Europe-assistance, de toute façon, je pars jamais en vacances. Garde-le. Ça marche aussi en bas de chez toi. Garde-le. Là, tu dis, dégage. Juste maintenant, il a besoin d'Europe-assistance. Maintenant. Maintenant qu'il a déchiré le contrat. Maintenant, il a besoin. C'est comme ça la vie. Toi, Akjourou, c'est comme ton père. Maintenant, tu peux avoir les parents les plus pourris du monde. Ça reste tes parents. T'en as besoin. Quand tu fais de l'équilibre sur une barre, sur un câble, t'as une barre comme ça, il y a un poids là, c'est tes parents. Bon ou mauvais, c'est un poids. Parce que si c'est mauvais, tu peux te situer par rapport à eux. Si c'est bon, ils peuvent te permettre de t'épanouir. Donc bon ou mauvais, t'en as besoin. Si tu coupes avec les contacts, tu coupes avec les repères, tu bascules. C'est pareil. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ouais, Dieu, qu'est-ce qui m'a apporté Dieu? Tu crois quoi, toi? Tu crois que quand tu vas rendre la société Dieu, elle va t'apporter? Tu veux que la société, elle t'équilibre? Tu veux que la télé, elle t'équilibre? Tu veux que les médias, elle t'équilibre? Qu'est-ce que tu veux? Non. Moi, je te dis, religieux ou pas religieux, garde le contact. Il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un m'a dit aussi, franchement, je suis dégoûté, je suis écœuré de la religion. Avant, j'avais une petite relation avec HM. Maintenant, j'ai essayé genre d'améliorer. Je suis écœuré. Je lui dis, écoute, fais ce que tu veux, mais ta relation, garde-la. Tu n'arrives pas à prier, parle-lui. Les téphilines, respire pas. C'est comme la respiration. Mêlée. Après, tu réfléchis. Tu dis, mêlée. Quand tu t'habilles, alors habille-toi avec les téphilines. C'est le casse-croûte. Ah oui, non. Oui, a-t-on une preuve réelle? Est-ce qu'on a prouvé que... De quoi tu te mêles? Tu demandes, quand ton cardiologue, il te donne des médicaments, tu demandes, est-ce que c'est cachère? Ah, tu les prends. Tu dis rien, hein. T'as bouffé de la dioxine pendant 20 ans, t'as pas demandé, tu dis, c'est un problème, la dioxine? Non, fais chier à colle, vas-y, meurs. T'as pas demandé, hein. Alors, si tu peux regarder un petit peu les compositions, c'est pas grave. Regarde un peu les compositions. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui avec l'alimentaire, c'est parce que les Juifs, pendant des années, ils ont rigolé sur les gens qui regardaient les compositions. Ah, tu rigoles quand je regarde les compositions? Alors maintenant, c'est toi qui vas regarder la composition. Comme ça. Il va chez le boucher et dit, est-ce que vous avez la traçabilité? La traçabilité. Quelle traçabilité? C'est du chien, on l'a abattu ce matin, mangez. Quelle traçabilité? Bien sûr, c'est votre chien, on l'a attrapé dans la rue ce matin. Vous laissez-vous qui l'avez élevé? Vous avez vu le pédigré, non? C'est marqué berger allemand, c'est votre chien, non? Alors mangez-le. Voilà traçabilité. Ah, ils demandent, hein. Ils sont devenus fous avec ça. Pourquoi, Rabotaille? Parce qu'il y a une coupure. Quand il y a une coupure, tu sais pas jusqu'où tu vas aller. Rappelez-vous de ça. On marche dans le noir. On marche dans le noir. Oui? Mais il y a une corde qui est tendue. Qu'est-ce qu'elle dit, HM? Il dit, lâche pas la corde. Tu dis, je t'en prie, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je lâche la corde, mais je marche à côté. Alors, au début, qu'est-ce qu'il fait le type? La corde, il la tient comme ça. Après, il la tient comme ça. Mais il sent la corde autour, ouais. Après, il dit non, ça me fait des crampes. Alors, il met la main au-dessus, comme ça. De temps en temps, il la touche. Mais il sent la vibration, comme ça. Vous savez, le chanvre. Il y a des petites brindilles, là, et ça gratte. Après, ça le dérange. Il dit, bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais me concentrer pour bien marcher droit. Comme ça, je sais que je suis pas loin de la corde. Alors, maintenant, il a lâché la corde. Écoutez-moi bien. Dans le noir, tu peux pas savoir si t'es à 1 mètre de la corde. Ou si t'es à 1000 mètres de la corde. Et de temps en temps, il y a la lumière qui s'allume, et tu dis, oh, mince! Je suis en Bretagne. Eh oui, t'es en Bretagne. Comment t'es arrivé? T'étais à 4 mètres du Cotel, maintenant t'es en Bretagne, comment t'as fait? Parce que t'as lâché la corde. Oh, tu dis, oh, toute ma vie, faut que je tienne la corde. Oui, faut que tu tiennes la corde, oui, Charlot, faut que tu tiennes la corde, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que qu'est-ce que tu tiens? Tu tiens la télécommande, quoi, c'est mieux. C'est mieux. Tiens la corde. Pourquoi? Sans coupure. Tu coupes pas dans l'étude de la Torah. Tu coupes pas dans la conscience. Tu coupes pas dans la réflexion. Tu coupes pas dans l'évolution. Tu coupes pas dans les efforts. Tu coupes pas dans tout ce que tu fais pour maintenir ton moral. Oui. Rabotaille, c'est un capital, le moral. Faut pas le gaspiller. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec. Ils disent, non, je t'en prie, je suis fort. Tu es fort. On va voir le psy, qu'est-ce qu'il pense de toi. Non. Tu te bats pour ton moral. Tu te bats pour ta santé. Tu te bats pour ta réflexion. Tu te bats pour ta maturité. Tu te bats pour ton identité. Arrête de dire, ouais, je t'en prie, l'identité, on est tous des juifs, on est tous des frères, on est tous des... L'identité, elle a une définition très claire, 613. Pas 501, 613. N'oublie pas. Alors débrouille-toi. Étudie la Torah. Pourquoi je fais ce cours maintenant? Parce que, voyez, il y a un truc bizarre. Je sais pas si vous avez remarqué. Toujours je me suis demandé, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis Rosh Hashanah juste après les vacances. C'est bizarre. Tu reviens des vacances, Dieu il va dire, bah, écoute, on va faire les comptes maintenant. Nous, on voudrait quoi? Nous, on voudrait que tu fasses Rosh Hashanah juste après Pessah, juste après Kippour. Ah, t'es clean, cachère. Ouais. Tu t'es battu comme un fou, t'as fait Elul, t'as fait Rosh Hashanah, t'as fait Kippour, t'as fait Sukkot. Ah, t'es bourré de mitzvot, tu dis, alors Dieu, maintenant, alors, hein, on fait les comptes. Là, t'as passé 2 mois à jouer les pains. Et encore jouant les pains, c'est, il y a une grande synagogue. Mais Antibes, déjà, c'est loin. C'est au moins 10 mètres. Ouais. C'est pas évident. D'accord. L'après-midi, Baruch Hashem, t'étais à Mincha. Le matin, bon, t'étais à la plage. Bon. T'es mi-steak, mi-raisin. Ouais. C'est très dur. À Botaï, le plus grand danger, c'est la coupure. Débrouille-toi. Je sais pas où tu vas aller en vacances. N'oublie pas. Tout le travail qu'on a fait pendant un an, et moi je vous le dis, je suis très satisfait du travail qu'on fait ensemble. J'espère que ça va durer, si Dieu veut. Ouais. Je suis très satisfait. Mon cours du mardi, je le dis, même je le dis ailleurs, c'est mon meilleur cours. J'ai fait 190 cours cette année, dans toute l'année. Mon meilleur cours, mon kiff, c'est le mardi. Je le sais, parce que c'est un autre niveau de maturité. Je fais partout. Chaque endroit, c'est différent. Mais le cours du mardi, c'est spécial. Parce qu'il y a, au HM, ça, c'est une confiture qui n'arrête pas de mûrir. D'accord? Donc, je suis très content. Mais je vous le dis, avec toute l'expérience, tout le travail, tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a pu acquérir, tous les flashs, même si vous avez pu apprendre des choses, épanouir, et même aider des autres à vous épanouir, et même peut-être vous avez même soigné votre psy avec le cours, ouais, c'est possible, ouais. C'est possible. Mais c'est pas grave. Mais sachez-le. Sachez-le. Tout ça, ça peut partir en fumée. Comme ça. Si, mais, c'est pas possible, c'est des acquis. Moi, le cours, je l'ai par cœur. Moi, je peux, non, même le rabbin, je l'ai planté avec le cours de Béchitri, je l'ai éclaté la tête. Sache-le, tout ça, c'est un iceberg. Ouais, immense. Mais l'iceberg, c'est de la glace. Et de la glace, c'est de l'eau. Et l'eau, c'est de la vapeur. Et la vapeur, bientôt, c'est un souvenir de glaçon. Alors faites attention que pendant les vacances, le glaçon, il va pas fondre. Parce que le mot vacances, il veut dire vaqué, vide. On dit un poste vacant. Alors attention que quand vous allez en vacances, attention que vous n'allez pas en vacances, vous. Vous me suivez ou non? Vous restez à la synagogue. Peut-être votre corps, il va aller en vacances. Mais votre conscience, attention. Attention que vous allez venir, vous allez me dire, vous comprenez, la pizza cachère, elle était à 10 minutes. Alors, je prenais une, mais fromage, hein. Chas v'shalom, hein. J'enlevais moi-même les lardons, hein. Ah non, attention, hein. Ah là, Dieu nous protège. Et sur la plage, je regardais que les femmes qui étaient pas mariées. Hein. Oh là lui, oh. Avec la kippa. Hein. Yeah, il m'a dit, vous savez, j'étais dans un des plus grands hôtels de Miami, c'est un hôtel des plus classes, il y a toutes les stars. J'ai trouvé vos cassettes là-bas. Et bah, vos notes. Même là-bas. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il doit comprendre. On a fait un travail ensemble. Je répète parce que je sais que c'est très important. On a beaucoup évolué. Je vous dis, moi, j'ai évolué plus que vous. J'espère que vous avez profité, Baruch Hashem, que je délire avec vous chaque mardi soir. Donc, qu'on va continuer, si Dieu veut, l'année prochaine, jusqu'au Mashiach, peut-être même après. Je sais pas s'il sera d'accord qu'on continue des cours marrants après Mashiach. Ouais. Mais, sachez-le, tout ça, c'est très solide et en même temps, c'est très fragile. Donc, faites tous vos efforts. Ouais. Continuez. Moi, j'ai dit aux gens, écoutez des cours, même prenez avec vous, vous en avez tous, je sais que vous en avez tous, vous avez des cours, vous avez des cassettes, vous avez des CD. Prenez tous les mardis, vous fixez, même à Nathaniel là-bas, peut-être à Dallas, Allah, en Corrèze. Vous continuez à écouter, écoutez un cours par semaine, c'est une bonne moyenne, deux, ça fait une indigestion. Écoutez, prenez un rendez-vous, d'accord, peut-être même ça sera encore plus personnalisé. Si vous en avez pas, vous pouvez en prendre ici. Mais prenez des réserves parce que sachez qu'il faut que vous passiez. Moi, je dis toujours, c'est comme dans une vague. Imagine, t'es sur un bateau, dans une tempête, et tu vois une vague de 30 mètres qui arrive. Tu dis, ça y est, Halet, qu'est-ce que tu fais, Kaddish? Tu vois une vague de 30 mètres, qu'est-ce que tu fais? Tu t'accroches à tout ce que tu connais de solide. Tout ce que tu sais de solide. Tu as une famille, tiens ta famille. Tu as des amis, tiens les amis. Tu as la Torah, tiens la Torah. C'est pareil. Les vacances, c'est une vague. Vous avez bien vu ce qui déferle, toute la viande fraîche qui déferle sur Paris. Je prends jamais le métro. Je suis toujours accompagné en voiture. Là, ces deux jours-là, j'ai été prendre le métro. Je dis, mais comment les gens, ils font pour prendre le métro? C'est pas vrai. On dirait dans une chambre froide. Il n'y a que de la viande à le crocher. Partout, il y a de la viande, la viande, la viande, la viande. Vous imaginez pas maintenant une viande snioute. Un quartier de viande snioute. Tu prends le métro, de la viande, la viande. Il y en a, il m'a dit, mais vous me reconnaissez pas? Attends, bouge pas. Ah, bien sûr, je te reconnais. Ah, bah. Là, c'était pas de la viande, elle était carrément désossée, celui-là. Ouais. En Bretagne, c'est très, très dur. Moi, je comprends. Je sais, je suis là, je vous fais des cours. Je vous dis la kedusha, la sainteté. Mais je vois, c'est très dur. On est jeté là-bas épiné. on est tranquille, on voit rien. Mais je vois les gens ici, c'est, dans Paris, c'est très très dur. C'est bon, vraiment, bon courage, ou réfauchez le match, c'est pas ce qu'il faut dire. D'accord. Mais, et ça, c'est Paris, imagine le métro. D'accord. Maintenant, là, après, tu pars, tu vas en vacances. Mais c'est pire. Comment tu vas faire? Tu dis, mais c'est pas évident. Puis à partir de 7 heures du soir, le jour, il fait jour, on se déshabille. La nuit, il fait jour, il fait nuit, mais on se déshabille aussi. Fais attention. Tu dis, ouais, mais je craque, mais après, je vais faire une teshuvah de folie. Comment teshuvah de folie? Et Hia, elle va bien m'expliquer comment on enlève les tâches. Dès que je rentre, je lui dis, écoutez, j'ai 3-4 tâches, qu'est-ce que vous pouvez m'aider pour Inch'Allah? Tu peux pas aller à condition d'effacer les tâches. Donc, préservez-vous, maintenez-vous. Même si vous dites, ouais, mais c'est une occasion, peut-être que je vais pas la retrouver, puis j'ai envie de m'éclater. Sachez que dans un attentat, il y a toujours des gens éclatés. Alors, si t'as envie de t'éclater, c'est dommage. Pourquoi tu vas t'éclater? Non. Maintiens-toi dans l'équilibre. Tout ce que t'as appris, tout ce que t'as développé, tout ce que t'as compris, garde-le, maintiens-le, pour que, si Dieu veut, on revienne tous dans un bon état à la rentrée et qu'on puisse reprendre le cours d'attaché.